Oh, il y a de l'action dans ce studio, mes amis. Vous êtes à l'émission Nageur sur Boulevard 101, votre émission du midi, de midi à 14h. Et tel que promis et prévu, on amorce l'émission sur les chapeaux de roue. Habituellement, c'est avec le caucus d'Antonin Iaccarini, mais aujourd'hui, c'est avec nos trois candidats à la mairie de Lévis. On est tellement choyés de pouvoir vous présenter ce débat-là. On les remercie infiniment d'être là. Pour ceux qui nous écoutent et qui voulaient interagir, 418-971-1021 par texto. On est également en direct sur la chaîne YouTube de Boulevard 1021, sur la chaîne Twitch à twitch.tv/BLVD/FM. Aussi sur Facebook Live, donc vous avez plein de moyens de nous écouter. Vous pouvez nous écouter aussi via la web radio sur le BLVD.FM. Et n'oubliez pas notre application qui est disponible, Boulevard 101 sur App Store, Google Play Store. Et avec le haut-parleur intelligent, bien, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et ça vous rejoint immédiatement. Donc, j'en profite pour saluer immédiatement nos trois candidats. À ma gauche, j'ai M. Serge Bonin, chef de Repensons Lévis. Bonjour, M. Bonin.
Salut.
Ça va bien?
Ben oui, certainement.
Excellent, merci d'être là. Devant moi, j'ai la chef de Lévis Force 10, Isabelle Demers. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
Excellent, merci beaucoup. Et à ma droite, j'ai Stephen Blainey, le chef de Prospérité Lévis. Bonjour, M. Blainey.
Bonjour, Jeff. Merci, Boulevard, et bon 10e anniversaire.
Hey, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est demain soir, 10e anniversaire au Malcommode. On vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, à Lévis, je vous le dis, je vous l'ai dit dans l'hall d'accueil, je vous le dis ici également, on a la chance d'avoir des débats qui se font sur les idées depuis le début de la campagne électorale. Merci de contribuer autant à l'exercice démocratique. Je sens que ça va être un débat très sain aujourd'hui, parce que c'est pas rien, près de 12 ans de mairie, de Gilles Lehoulier, bien les gens de Lévis doivent décider justement de leur nouveau maire ou mairesse. Donc, lors de ce débat, on va, vous aurez l'opportunité justement de débattre et nos auditeurs vont avoir l'opportunité de vous entendre sur trois thématiques. La première, c'est le développement de Lévis, donc développement urbain, développement économique, la mobilité et la qualité de vie à Lévis. On le sait, les gens sont heureux à Lévis lorsqu'on les sonde au niveau de la qualité de vie. Et évidemment, les finances publiques, parce que c'est un enjeu qui parle toujours à nos auditeurs et aux électeurs de Lévis. Chaque candidat, vous allez avoir l'opportunité de présenter votre vision pour chacun des thèmes. Et par la suite, on va débattre en format duel, donc des débats d'une durée de 2 minutes pour ne pas le faire en trio et que ça devienne cacophonique. Donc, on va être discipliné à Boulevard 102. Avant de passer à la phase débat, cependant, bien, vous allez avoir chacun 1 minute justement pour vous présenter à nos auditeurs, vous présenter aux électeurs de la très belle ville de Lévis. Et j'en profite pour céder la parole en départ à Isabelle Demers, la chef de Lévis Force 10. Madame Demers, vous avez 1 minute pour vous présenter à nos auditeurs.
Merci beaucoup. Alors, je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'aime profondément ma ville. J'y vis, j'y travaille, j'y ai élevé ma famille et mes petites filles y vivent. Je crois qu'ensemble, on peut aller encore plus loin. Ce qui me motive, c'est d'abord et avant tout la proximité avec les citoyens. Être à l'écoute, accessible, présente sur le terrain, pour moi, c'est essentiel. On prend les meilleures décisions quand on les prend avec les citoyens, pas dans une tour d'ivoire. Je veux qu'on se parle, qu'on échange et qu'on continue de construire ensemble une ville à notre image. Je veux aussi qu'on se sente en sécurité dans nos rues, peu importe l'âge, peu importe le mode de déplacement, marcher, pédaler, conduire. Chacun doit pouvoir le faire en toute confiance. La sécurité, c'est un droit, pas un luxe. Bien sûr, il faut qu'on repense la mobilité à Lévis. On a besoin de solutions concrètes, efficaces, adaptées à notre réalité. Je me présente avec humilité, mais aussi avec toutes mes convictions depuis toutes les dernières années.
Merci beaucoup, Madame Demers. En passant, j'ai dit 418-971-101 pour réagir. Vous pouvez aussi envoyer des questions, puis il y en a déjà une que je sais qu'on va débattre là, dans l'onglet « Mobilité, qualité de vie ». Ah, le projet de l'autoroute 20 direction ouest. On va-tu élargir ça, cette autoroute-là? Les auditeurs veulent vous entendre là-dessus. Ça sera justement dans la mobilité et qualité de vie. Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, à vous la parole. 1 minute pour vous présenter à nos auditeurs.
Oui, mes deux adversaires sont en train de joindre notre discours sur beaucoup d'enjeux. Saine gestion, baisse de la dette, plafonnement des taxes, contrôle de la croissance sur le long terme. Ils ont compris qu'on avait raison depuis le début. On veut tous élargir la vin, mais mes deux adversaires veulent poursuivre les voies réservées. Un mauvais projet qui coûtera 37,5 millions du kilomètre pour la ville avec le nouveau décret gouvernemental. Le SRB coûtera 6 millions du kilomètre à la ville et sera plus efficace. Il va retirer des voitures. Il n'y a même pas de question à se poser sur qui a le bon projet. Il n'est pas question qu'on touche à nouveau à Guillaume Couture avec le SRB tant que la 20 ne sera pas élargie. Je ne vais pas obstruer Est-Ouest en même temps. On l'a vécu. Non merci. Les gens du centre-ville de Lévis et de Saint-Romuald ont eu un traumatisme des travaux et je ne vais pas leur faire revivre ça dans les prochaines années. On va baisser la dette avant de tomber dans d'autres projets. Finalement, on va décentraliser des pouvoirs pour que les quartiers aient des budgets et puissent se prononcer sur les budgets, les projets de proximité. Voilà comment on va travailler. Repensons Lévis, place l'humain au cœur de toutes ces considérations. Et ça, depuis le début.
Merci beaucoup, M. Bonin. Très apprécié. Et on conclut le segment introduction avec M. Stephen Blaney, chef de Prospérité Lévis.
Merci, Jeff. Alors, Lévis est une ville forte, mais fait face à de grands défis. Avec la densification et toutes ses tours sans planification, la congestion routière, le moratoire sur les deux tiers du territoire et les enjeux reliés à la sécurité, les défis sont grands, mais pas insurmontables. Chez Prospérité Lévis, nous voulons reprendre en main notre développement et celui de nos finances en se donnant de la prévisibilité pour un développement équilibré afin de permettre l'habitation abordable et les services de proximité. Avec nos partenaires, on veut moderniser nos infrastructures sportives, culturelles et communautaires pour répondre aux besoins des jeunes et des familles dans tous les quartiers. On veut revenir aux services de base, en investissant pour limiter les refoulements d'égouts, réhabiliter nos rues et nos trottoirs avec un vigoureux plan de 20 millions de dollars annuellement et rendre nos quartiers plus sécuritaires en donnant à notre service de police tout l'appui et les ressources nécessaires et en le dotant d'une escouade anti-gang. Ceci en appliquant une rigueur budgétaire, une responsabilité fiscale intergénérationnelle et en maintenant un niveau de taxation compétitif en deçà de l'inflation.
Merci beaucoup, M. Blaney. On va passer à notre premier bloc qui parle de développement urbain et économique. Donc, la ville de Lévis compte maintenant environ 155 000 habitants, ce qui fait en sorte qu'elle a devancé de 23 ans les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec. Chaque année, c'est en moyenne plus de 2200 nouveaux résidents qui choisissent Lévis comme lieu d'habitation. Cela ne se passe pas sans heurts, évidemment, et sans défi. En effet, la ville de Lévis a dû décréter un moratoire sur sa construction résidentielle sur les deux tiers de son territoire en décembre dernier. Au niveau économique, le gouvernement du Canada a octroyé des contrats de l'ordre de 3,25 milliards de dollars à la DEVI en avril dernier. C'est une excellente nouvelle pour la ville de Lévis, évidemment. Nous vous demandons maintenant de nous présenter votre vision du développement urbain et économique en une minute. Par la suite, vous allez avoir deux minutes pour débattre avec chacun de vos opposants. Donc, pour la présentation de votre vision économique, on va commencer avec M. Bonin de Repensons Lévis. Vous avez une minute.
Oui, merci. Bien, c'est allé trop vite. Hein? Plus de 10 000 conversations en porte-à-porte nous le confirment. Les gens trouvent qu'ils ne reconnaissent plus leur ville. Nous, on veut un contrôle de la croissance sur 25 ans. Si la ville nous dit 25 000 portes, ça va être 1 000 par année. Si elle dit 50 000, ce sera 2 000 par année. Si on peut en faire plus, on en fait plus, mais les infrastructures doivent suivre la cadence. Ça prend de la prévisibilité. Il y a du logement disponible, mais il n'est pas abordable. Là, il faut être audacieux. Il faut acheter des terrains. Il faut favoriser les coopératives, le logement social, les OBNL. Il faut permettre des congés de taxes. Il faut donner des étages de plus à qui inclut un pourcentage de logement abordable. Ça, c'est les outils. On a demandé depuis le début du mandat l'état de nos infrastructures. Là, on commence à peine à avoir un portrait, mais c'est très incomplet. Est-ce que la croissance rapporte plus qu'elle coûte? C'est pas si clair, c'est pas démontré. On a insisté pour que la répartition des coûts soit plus équitable entre les promoteurs et les citoyens. Le conseil a fini par nous donner raison sur les redevances au développement. Le tourisme a été mis de côté. C'est quoi l'identité touristique et culturelle de Lévis? C'est pas défini. Pourquoi on viendrait y passer des vacances? On sait pas trop.
Merci.
Comment on fait de Lévis une ville de passage à une ville de destination? Je vais terminer là-dessus.
Merci, M. Bonin. C'est maintenant au tour de M. Blaney de nous présenter votre vision pour une minute.
Notre vision, c'est de faire en sorte qu'on puisse poursuivre notre développement de manière équilibrée et responsable. Lévis a connu une croissance phénoménale, on le dit, mais on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube de dentifrice avec le chantier qui va avoir 10 milliards d'investissements, qui injecte présentement 1 milliard pour moderniser leur installation. On parle à la vivacité de nos entreprises dans le parc industriel. On pense aux technions, on pense aux gens bêtes, on pense aux labris. Et ce sont tous des entreprises qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et ils ont besoin d'héberger ces gens-là. C'est la raison pour laquelle on doit poursuivre un développement. Et il y a des formations politiques qui voudraient étouffer notre développement et dire on va consulter. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas attendre 20 ans parce que c'est maintenant que ces besoins-là sont là. C'est la raison pour laquelle qu'on n'est pas en mode moratoire, référendum, on est en mode action. Et c'est la raison pour laquelle dans les 4 premiers mois d'un mandat de Prospérité Lévis, on va se mettre en mode solution. On va travailler avec nos excellents ingénieurs. Et je dois dire, pourquoi n'avons-nous pas écouté les ingénieurs? C'est ce qu'on veut faire pour poursuivre un développement.
Merci beaucoup, M. Blainé. Et on termine avec vous, Mme Demers, pour une minute.
Merci beaucoup. Alors, moi, pour moi, la Ville de Lévis se développe et s'est développée avec une planification qui était existante. On n'avait pas les moyens légalement d'arrêter le développement dans le sens où, quand les projets sont déposés à la Ville de Lévis et que ça respectait la réglementation, on avait l'obligation d'émettre le permis. Ça fait un petit peu plus qu'un an que le gouvernement provincial nous a donné le pouvoir d'émettre des moratoires pour qu'on s'occupe de nos usines. On a beau dire qu'on a mal planifié, c'est pas vrai. Lévis est une ville attractive et les gens, les promoteurs ont voulu venir s'installer à Lévis parce que ici à Lévis, on reçoit très bien. On a développé de façon rapide parce que les émissions de permis se sont faites selon la réglementation actuelle. On peut penser et on peut dire bien de belles choses. On n'avait pas les moyens légaux pour pouvoir bloquer les émissions de permis et le moratoire nous a permis de le faire.
Merci beaucoup, Mme Demers. Donc, ça va être le temps de débattre en duo. Le premier duel sera entre M. Bonin et M. Blainé. Vous avez 2 minutes. Et M. Bonin, vous pouvez démarrer par
je
une
démarre.
Question.
Je démarre parce que là, vous dites qu'on va lever le moratoire le plus vite possible. La solution est d'être en mode solution. Les données appartiennent en ce moment aux ingénieurs de la ville. Donc, vous êtes ingénieur vous-même, vous n'avez pas les données et vous dites « oui, il n'y a pas de problème, on va lever le moratoire, on va trouver des solutions ». Vous savez très bien qu'il y a des normes environnementales très élevées et qu'en ce moment, construire une installation temporaire prendrait presque autant de temps que construire l'installation permanente. Donc, on retarderait l'installation permanente. Quelle est votre solution concrète?
Bien, vous savez, M. Bonnet, je vous remercie pour votre question. Les gens qui nous écoutent ne veulent pas savoir si ça va être une technologie membranaire, une technologie des tarifs facultatifs. Les ingénieurs vont nous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'étouffer la ville. Et je regarde votre plateforme. Vous parlez d'un amphithéâtre moderne, d'un musée.
J'aimerais
vous avez
qu'on
parlé
réponde
d'un
à ma question,
SRB, d'achat de terrain, de plafonnement. Le service de la dette représente
là, vous avez
déjà
refusé de répondre. Monsieur Blainé, j'aimerais ça que vous répondiez à la question.
Bien, je réponds à votre question.
Vous voulez... Vous avez dit les gens ne veulent pas le savoir. Là, vous êtes en train de remettre en question les données et l'expertise des ingénieurs de la ville. C'est ça que vous faites.
Non, au contraire. Au contraire, je me fie totalement sur les services techniques de la ville.
Mais ils ont dit que ce n'est pas possible de faire une installation temporaire parce que les normes sont trop élevées. C'est ça qui a été dit.
Qu'elle soit temporaire ou permanente, l'important, c'est qu'on soit en mode rapide, qu'on pèse sur l'accélérateur pour ne pas priver la ville de revenus de plus de 150 millions de dollars.
Alors, les
Comment allez-vous financer tous vos rêves si vous n'avez pas l'argent pour le faire?
Les ingénieurs qui ont les données en ce moment nous disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de lever le moratoire plus vite. On va au maximum qu'on peut. On doit répondre aux normes environnementales. On doit faire les plans et devis. Vous le savez, vous êtes un ingénieur en eau usée.
Je suis fellow ingénieur et je paye ma cotisation.
Donc, vous
ça
savez que
rassurer.
Ça prend du temps. Vous pouvez
Alors,
pas,
ce que je peux
vous
dire,
pas
c'est
lancer
que j'ai
à tout vent.
De travailler avec les ingénieurs.
Bien sûr, mais vous
ne
pouvez pas lancer à tout vent aux auditeurs.
Pourquoi vous étiez dans l'opposition pendant 4 ans? Comment se fait-il que vous avez dormi au gaz et
Pardon?
Ne pas faire en sorte qu'on soit prêt pour la situation à laquelle on est confronté, dans laquelle on a un moratoire
Blainé,
qui bloque le développement et qui nous étouffe?
Je vous rappelle que j'étais dans l'opposition. L'information n'a pas toujours été transparente, ça c'est clair. Mais vous ne pouvez pas m'accuser de ça, certainement pas.
Vous allez avoir l'occasion là, de vous recoltailler un petit peu. On va passer au deuxième duel. M. Blainé, vous allez pouvoir continuer, mais cette fois-ci avec Isabelle Demers. Allez-y.
Bien, c'est ça. Écoutez, je regarde ici un article qui a été publié hier dans Le Soleil où vous dites, Mme Demers, que vous considérez que votre bilan est excellent. Moi, je regarde, on vient de parler du moratoire qui freine le développement sur les 2/3 du territoire. Vous avez quadruplé une taxe pour les terrains vacants. Vous avez dû vous faire taper sur les doigts par la ministre des Affaires municipales parce que ça n'avait pas de bon sens. On a eu des comptes de taxes à 7,7. Écoutez, vous savez comme moi, la congestion routière est affreuse à Lévis. Puis en plus, quand il y a des comptes, il y a eu des comptes pendant des longues périodes et il a fallu qu'un propriétaire aille sur les réseaux sociaux avec 7 millions de publications pour que, boum, comme par magie, le lendemain, les comptes disparaissent. Pourquoi être en mode réaction alors que les gens s'attendent à ce que la ville soit proactive et qu'elle n'attende pas qu'il y ait des congestions monstres avant d'agir?
Merci beaucoup. Bien, merci, M. Blainé, de votre excellente tour de roue. Hein. On a tout mis dans la même question. En fait, moi, je vais revenir sur le moratoire. Le moratoire a été fait dans le respect des citoyens. Quand on dit on a les deux tiers du territoire de la ville qui est sous moratoire, on a voulu protéger les citoyens. Le développement s'est fait plus rapidement que qu'est-ce qui était prévu au schéma d'aménagement. On a autorisé des permis, j'en ai parlé tout à l'heure, plus rapidement que qu'est-ce qui était prévu. C'est d'être responsable de mettre un moratoire et de dire aux citoyens actuels, on vous protège et on vous respecte. Prenons le temps de mettre nos usines à niveau. Et là, ça me fait rire parce que les subventions gouvernementales qu'on reçoit pour les usines, c'est pour les mises à niveau. Alors que pour l'augmentation de la capacité, il n'y a aucune subvention possible. Alors là, on va parler de projets temporaires pour l'augmentation ou pour pouvoir construire plus rapidement. Aucune subvention disponible. Puis on va dire à ce moment-là, nous, la Ville, on ne peut pas se permettent d'avoir des solutions temporaires. Je suis contente de voir que M. Blainé répète qu'il est un ingénieur. Ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'il ne respecte pas le travail des ingénieurs actuels auxquels j'ai vraiment confiance.
J'arrête, Mme Demers. Je vais quand même vous laisser un petit 5 secondes pour répondre. Après, on change de duo.
Ben, écoutez, oui à une solution qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse poursuivre notre développement, donner des services de proximité à Pintendre et avoir de l'habitation abordable.
Parfait. Merci beaucoup pour ce bon débat. Maintenant, Mme Demers, vous allez continuer la discussion avec M. Bonin. Allez-y.
Merci. En fait, Serge, on est des collègues à la Ville. Ça n'a pas toujours été facile. Au moment où on a mis le moratoire en place, il fallait réagir rapidement. Oui. Le gouvernement nous a donné cette possibilité-là il y a un peu plus qu'un an et demi. Donc, on a quand même réagi rapidement. Puis là, je vais répéter pour le respect des citoyens actuels. Les demandes de permis, il y en avait déjà encore beaucoup qui étaient déposées. Mmh. Et c'est responsable, c'est un conseil de ville responsable qui fait qu'on a dit, là, on prend une pause, on s'occupe de nos usines. Il y a des collègues ici à l'entour de la table qui nous disent que tout peut se faire rapidement. On le sait que ça ne peut pas se faire rapidement et surtout pas en 4 mois.
Il y a quand même eu des drapeaux rouges depuis longtemps dans l'administration. Là, on a entendu dire que ça faisait plusieurs années qu'on nous disait... D'ailleurs, le schéma d'aménagement dit 850 portes. Vous avez vu là, le nombre de portes augmenter au fur et à mesure, année après année. Donc, comment vous pouvez dire aujourd'hui que c'était une bonne planification, mais surtout... Est-ce que vous tirez des leçons? Parce que là, la dette a augmenté, rendue à 150 %, deuxième grande dette au Québec. Les taxes ont augmenté aussi, on est quatrième plus taxé au Québec. Donc, il y a des conséquences à cette vitesse-là à laquelle on a développé. Là, vous dites le seul moyen d'en sortir, c'est le moratoire. Est-ce que vous tirez des leçons puis vous allez trouver d'autres moyens par la suite pour ralentir la croissance, la contrôler? Parce qu'on ne veut pas l'arrêter. Là, on dit tout le jour qu'on veut étouffer la croissance. Ça n'a jamais été ça le discours.
Non,
je sais, mais ça ne vient pas de vous. Là,
non,
ça...
non,
voilà. Mais est-ce que vous avez tiré des leçons de cette croissance-là exponentielle qui fait qu'on a plein de problèmes aujourd'hui?
Mais en fait, ce n'est pas qu'on a plein de problèmes. C'est que là, on a eu les moyens du gouvernement provincial pour dire « avant, on ne pouvait pas ». Le moratoire n'existait pas. Dans plusieurs
villes... Mais donc,
c'est
le seul levier, le moratoire?
En fait, on est... À partir du moment où on a une demande de permis qui respecte la réglementation, il aurait fallu probablement changer la réglementation plus rapidement, mais à partir du moment où on a eu l'occasion...
Donc, est-ce que vous souhaitez changer la réglementation, avoir plus de moyens qu'être obligé de faire un moratoire une autre fois? C'est ça qui, moi, tient pas la route de ce côté-là.
C'est de prendre le temps de faire nos travaux pour nos usines actuelles. On n'est pas la seule ville qui a ce problème-là d'infrastructure.
Merci.
Donc, c'est vraiment de prendre ce temps-là et tout ne peut pas se faire en 4 mois.
Merci à tous les trois. Ça démarre vraiment en force. On sent que vous êtes en forme, malgré un petit rhume.
Léger. Ben oui, je combats, j'ai pris mes médocs pour vous.
Bon, merci, c'est très apprécié.
C'est trop de poignées de main, c'est ça que ça donne.
Ah, c'est ça, les campagnes électorales. On a une question d'un auditeur. Je vous la pose, répondez chacun votre tour, peut-être un petit 10 secondes. On regarde ça court. Que dire de nos installations sportives désuètes? Des travaux beaucoup trop longs pour rénovation de façades. Aucun projet d'envergure pour des sports en croissance, comme le baseball ou pour notre sport national. Ben, je vais y aller avec vous, M. Blainé, en commençant.
On veut aller en partenariat public-privé avec un organisme à but lucratif pour améliorer le stade Georges Maranda, qui est notre vaisseau amiral de nos équipes sportives au niveau du baseball. Donc, on a besoin de faire du partenariat et on ne veut plus que ce soit les bénévoles à la dernière minute qui entretiennent nos terrains sportifs.
Parfait, Mme Demers.
En fait, il y aura de belles annonces qui vont se faire du Parti Lévis Force 10 jeudi. Ah. On va faire nos annonces. Alors,
on n'a pas le scoop.
Non, on ne vous le donnera pas, mais... partenariat public-privé, on a de très beaux projets qui se sont faits, mais on a aussi de très bons employés à la Ville de Lévis. L'entretien de nos parcs et espaces verts vont continuer de se faire.
Parfait. Monsieur Bonnet, en terminant?
Bien, j'ai parlé à une entreprise de Montréal. Il y a d'autres façons de faire. Hein. L'entreprise peut acheter le terrain, peut le louer à la ville pour une trentaine d'années. Donc, elle demeure la possession, mais c'est la ville qui l'entretient. Et évidemment, on diminue les coûts parce qu'on n'est pas obligé de passer par tous les appels d'offres puis tous les plans et devis et tout ça. Il y a d'autres moyens de faire pour être plus performant au niveau de la gestion de nos infrastructures.
Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. On passe maintenant à la thématique mobilité et qualité de vie. La Ville de Lévis se démarque par sa qualité de vie depuis plusieurs années. À cet effet, un sondage de 2024 a révélé que 81 % des citoyens sont satisfaits de la qualité de vie et l'indice de bonheur est élevé par rapport aux autres grandes villes du Québec. Pour ce qui est de la mobilité, les citoyens de Lévis sont toujours en attente d'un futur troisième lien autoroutier. Bien qu'ils privilégient le périphérique à l'est, on le voyait dans un sondage ce matin, le gouvernement provincial a annoncé en juin dernier un tracé près des deux autres ponts, soit à la hauteur de la route Lallemand. En transport en commun, l'administration municipale a pris la décision de développer un nouveau système de voies réservées. Toutefois, le projet de SRB a refait surface dans l'actualité récente de cette campagne. Nous vous demandons maintenant de nous présenter votre vision de la mobilité et de la qualité de vie en une minute. Par la suite, comme on vient de le faire, vous aurez deux minutes pour débattre avec chacun de vos opposants. On commence avec M. Stephen Blaney de Prospérité Lévis.
Merci. Alors, c'est simple. Ce que veulent les gens de Lévis, c'est passer moins de temps dans le trafic puis plus de temps en famille. Chez Prospérité Lévis, on est sans équivoque. Tous nos candidats, moi le premier, on veut un troisième lien à l'est, un bouclage périphérique pour encadrer le périmètre urbain plutôt qu'un lien central. On veut de l'action rapidement avec l'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest et aussi aménager la Marie-Victorin, la route des Rivières en boulevard urbain avec voie réservée. On va avoir une plus grande fluidité de notre réseau routier avec une meilleure synchronisation des feux de circulation, un ambitieux plan de réfection des pavages et trottoirs et voiries de 20 millions de dollars annuellement. Pour le transport en commun, plutôt que le mirage à long terme d'un SRB sans gain significatif et idéologique, on va poursuivre le déploiement des voies réservées avec feux de préemption sur la colonne vertébrale de notre réseau de transport en commun, le boulevard Guillaume-Couture. Et on va aussi améliorer l'interconnectivité. Je vois que mon temps s'écoule, voilà.
Et voilà, je sens que M. Bonin veut répliquer, mais on va commencer avec Mme Demers. On est rendu à Isabelle Demers dans l'ordre de Lévis Force 10. À vous, vous avez une minute pour nous présenter votre plan de match.
Merci beaucoup. Alors, numéro un, qualité de vie. Numéro un pour l'indice du bonheur. Les gens viennent s'installer à Lévis parce qu'on est bien à Lévis. Je me plais à dire qu'on est à moins d'un kilomètre d'un espace vert quand on veut en profiter. Mais on a des parcs, des infrastructures, des bibliothèques qui sont là. On parle de nos services de proximité. On va parler de l'asphalte, hein? On parle de ça. La mobilité, le troisième lien, c'est pas la première mouture qui nous est présentée. Il y en aura d'autres. Je vous ferai pas de surprise. Il y en aura certainement d'autres parce qu'on, sincèrement, on se pose la question si on sait où est-ce qu'on s'en va dans ce projet-là. Mais nous, depuis le premier jour qu'on dit qu'on veut un troisième lien pour les citoyens de la Ville de Lévis. Nous, en 2017, on a dit non au SRB. Je répète, en 2025, on redit non au SRB. On a fait le choix avec les experts de la Société de transport et de la Ville d'avoir des voies réservées sur Guillaume-Couture et c'est ce projet-là qu'on va poursuivre. C'est comme si on voulait aujourd'hui dire aux gens, parce qu'il y a une subvention de 95 %, on va prendre un projet qui ne répond pas à nos besoins.
Merci beaucoup, Mme Demers. Très apprécié. Monsieur Bonin, chef de Repensons Lévis, la parole est à vous.
Je suis content que vous l'admettiez, la subvention. Alors, la qualité de vie passe par les quartiers. On va donner des budgets dans chaque quartier au prorata de la population. Les gens vont venir se prononcer et décider des projets. C'est ça pour nous la base de la qualité de vie. Mobilité, élargir la 20, oui, mais pas en même temps qu'on travaille Guillaume-Couture. On l'a déjà vécu. C'est non merci. Et ce ne sera pas une recette miracle. Il faut faire des ronds-points de la synchronisation des feux, il faut faire un lien entre les rives, bien sûr. Mais la seule véritable option pour faire une vraie différence, c'est de soulager le nombre de voitures en facilitant le transport en commun. Les voies réservées, c'est un mauvais projet, on le dit, nous, depuis le début. Mes deux adversaires proposent de les prolonger. Il n'y a pas plus de gens en pourcentage qui vont prendre le bus. Le gouvernement l'a reconnu, 25 % de financement maintenant, donc chaque kilomètre qui coûte 50 millions, va coûter 37,5 millions à la ville. Tandis que la voie centrale de type SRB fait la différence. Ça répond à la vision 2040 adoptée en conseil. Ça va doubler le nombre de gens qui prennent le bus pour se déplacer. Et encore une fois, le gouvernement l'a reconnu, 95 % de financement, 6 millions le kilomètre plutôt que 37.
Merci beaucoup, M. Bonin. Je vous rappelle, on est sur les ondes de Boulevard 101. Vous écoutez le débat des trois candidats et candidates à la mairie de Lévis. On passe maintenant au duel de deux minutes sur la thématique mobilité et qualité de vie. On commence avec Mme Demers et M. Blainé. Mme Demers, à vous la parole.
Merci beaucoup. M. Blainé, je suis vraiment heureuse que vous ayez... Vous avez joint notre idée des voies réservées. Parce que quand vous vous êtes annoncé au mois de février, vous étiez pour le troisième lien. Je pense qu'on a tous, on a toujours été d'accord pour le troisième lien. Puis vous étiez d'accord pour le SRB. C'est une déclaration que vous avez faite en février quand vous avez annoncé votre candidature à la mairie. Alors moi, je suis vraiment contente que vous ayez joint l'idée de Lévis Force 10 de dire qu'on va continuer les voies réservées parce que c'est ça qui répond aux besoins des citoyens. Puis on est d'accord là-dessus, il n'est pas question d'embarquer dans un projet même subventionné à 95 % si on n'en a pas besoin. J'ai l'impression qu'on achète un produit parce qu'il est réduit de 95 %. Alors, pour moi, c'est non, c'est un non-sens.
Bien, j'ajouterais aussi à ça qu'encore faut-il qu'il y ait de l'argent dans les coffres d'où on pense aller chercher les subventions, alors que ce sont des sommes minimales qui sont réservées à cette fin-là. Pour répondre à votre question, quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai toujours dit, Mme Demers, que pour moi, ça prend un plan de mobilité régional et que le réseau autoroutier et routier est complémentaire à celui du transport en commun. Et vous savez, il y a beaucoup de terminologie, on parle de toutes sortes de terminologies. Et oui, je serai toujours d'accord avec un transport efficace de transport en commun. Et là, ce que je déplore, c'est que l'autre partie, eux, ils disent, bien, nous, on va consulter, mais dans les quatre prochaines années, on va justement se priver de subventions qu'on pourrait aller chercher pour justement continuer d'améliorer. Et pourquoi qu'on a besoin de continuer d'améliorer notre réseau de transport en commun? C'est à cause de la densification. Sur l'axe Kennedy et Buvard-Guillaume-Couture, il y a une densité qui justifie pleinement la prolongation des voies réservées. Alors, pour être clair, moi, qu'on parle de voies centralisées, on a fait un choix à Lévis d'aller dans les voies réservées. Il y a déjà 150 millions qui ont été investis. Continuons dans ce sens-là en fonction de notre capacité de payer. On connaît notre situation financière, vous la connaissez. Vous êtes, donc continuons, mais à notre rythme.
On ira en priorité, on choisira nos priorités à ce moment-là.
Merci beaucoup, le temps est écoulé. C'est maintenant le moment de M. Bonin et Mme Demers en duel pendant deux minutes. M. Bonin, la parole est à vous.
Les voies réservées, c'est prouvé, ça a été déterminé. Il n'y a pas de gain de part modale, il n'y a pas plus de pourcentage de gens qui vont prendre le bus, tandis que le SRB, oui. Quand on a dessiné le SRB la première fois, c'était en 2013. Et là, la population est rendue à 160 000 personnes. Ce ne sera pas long qu'on va être rendu à 180, 190 000. Pour les 15 prochaines années, vous allez refaire tout Guillaume Couture et par la suite, vous allez refaire un SRB parce que finalement, vous en avez besoin. C'est ça votre solution? Et là, vous dites, c'est parce qu'il y a 95 %, mais le gouvernement a reconnu que c'était le meilleur projet, le SRB. C'est un projet pour le transport en commun. On ne peut pas faire autrement.
En fait, on peut tellement faire autrement. Moi, je n'ai jamais fait un projet qu'on a étendu pareil partout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À Lévis, on n'a pas besoin d'un projet d'SRB. Ça fait deux fois qu'on le dit dans deux élections. 2017, on a dit non au
37
SRB.
37 millions par kilomètre pour les voies réservées, 6 millions par kilomètre pour le SRB. C'est vrai. C'est ça la facture à la charge de la ville.
Tout le financement qu'on a fait pour les voies réservées passe par la Société de transport avant d'être transmis au Conseil de ville. Oui. M. Bonin a toujours voté pour les règlements d'emprunt sur les voies réservées. Non,
évidemment, la subvention est attachée.
Non.
Ben oui,
Monsieur
Bonin,
ce que je vous dis, c'est que vous avez toujours voté pour les règlements d'emprunt qui ont été transférés
au
Conseil
choix.
De ville.
Franchement,
c'est pas vrai. Là, on a toujours le choix au niveau
de
des
votes. De toute façon,
ce que je veux
dans
dire,
ce projet-là...
C'est que même
allez-y, M. Bonin.
En tout cas, de toute façon, dans ce projet-là, En majorité, c'était des tuyaux dans le sous-sol, c'était des bassins de rétention. C'était les feux de préemption sont encore là, ils vont encore là. Et aussi, il y a les abribus qui vont être récupérés. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est perdu là-dedans. C'est juste la voie centrale qui n'est pas là et qui doit être là parce que le gouvernement l'a reconnu.
Alors, M. Bonin est en train de nous dire qu'on va retourner pendant 10 ans dans des travaux.
Pas du tout. Au contraire, vous allez redémarrer les cônes oranges dès le jour 1 en même temps que vous allez faire l'élargissement de l'autoroute 20.
Non, déjà depuis 3 ans. Puis moi, je vais vous dire, les experts de la Société de transport et de la Ville ont dit que déjà à partir de 2026, 22 % d'achalandage supplémentaire sera dans le transport collectif. C'est le meilleur projet
pour la ville de Lévis. On est loin de doubler la part
modale. Alors, il n'y a pas juste à Québec que la mobilité fait jaser. À Lévis aussi, les amis.
Bien sûr.
On va justement continuer dans cette veine-là avec M. Blainé, M. Bonin, M. Blainé. La parole est à vous. J'imagine qu'on va être pas mal sur le même thème. Si je me fie à ce qui se passe à l'heure actuelle, je suis pas mal certain que ça va être ça, M. Blainé. La parole est à vous.
Ben, écoutez, clairement, on est en faveur du transport en commun. Maintenant, du côté de Repensons Lévis, ça sent l'improvisation à plein nez. La plateforme se promène à gauche, à droite, en zigzag, par en haut, par en bas. Écoutez, M. Bonnet, on connaissait votre passé péquiste, on sait qu'il y a plusieurs de vos candidats qui sont contre le troisième lien.
On connaît votre passé conservateur, M. Blainé.
Oui, le Parti conservateur a toujours été totalement en faveur du troisième lien à l'Est.
Oui, alors.
Et j'en suis très fier. Mais il y a une chose sur laquelle on n'est pas d'accord, c'est un référendum. Hey, c'est-tu une manie des un réflexe péquiste
l'épouvante,
un référendum?
L'épouvante
alors
du référendum, allons-y.
Dans deux minutes, que le gouffre financier de 2,45 milliards de dollars dans lequel vous souhaiteriez nous plonger n'amène aucun bénéfice par rapport
millions.
Aux voies.
6 millions par
est-ce
kilomètre.
Est-ce que je peux poser ma question?
Elle est longue un peu pendant deux minutes.
Écoutez, pourquoi vouloir stopper le développement du réseau de transport? Parce que dans le fond, là, vous faites des rêves, mais il ne se passera rien en 4 ans alors qu'on a besoin d'améliorer notre transport
c'est
en commun.
C'est
pourquoi stopper le développement du transport en commun? Voilà. Là, maintenant, je vous laisse toute la parole.
6 millions par kilomètre versus 37,5 millions. Par kilomètre. C'est ça que les voies réservées coûtent. Ça n'a pas de sens de continuer dans ce sens-là. Moi, avant d'ouvrir Guillaume Couture, je veux faire le bon projet parce que je ne veux pas le rouvrir 4 fois. Je vais l'ouvrir juste une fois quand je vais être prêt. Donc on va attacher le document, on va revoir les plans, on va remettre les devis en place, on va attacher les subventions avec les 2 paliers de gouvernement et on le fera au moment où on sera prêt, au moment où on aura diminué la dette qui est trop importante. Il faut commencer par s'attaquer à la dette et surtout, on ne le fera pas en même temps qu'on va élargir l'autoroute 20. Parce que si on fait les deux en même temps, on retombe dans le même piège qu'on est tombé et Lévis est paralysé. C'est ça que vous voulez faire?
Donc, pour les 4 prochaines années, vous êtes contre le transport en commun. Merci.
C'est tout à fait démagogique, là, mais enfin, moi, je veux pas répondre à cette attaque-là qui est un peu fortuite et les gens feront leur propre opinion.
Vous voulez rien faire?
Je veux faire le bon projet. Je ne veux pas faire un mauvais projet qui va coûter trop cher. 37,5 millions par kilomètre, ça n'a pas de sens.
Merci beaucoup. Donc, ça conclut le thème mobilité, qualité de vie. J'adore quand on a des bons débats vigoureux. Question d'auditeur à peu près en 10-15 secondes.
Oui,
on
ce
a
n'est
fait
pas
tout
personnel.
À
l'heure. Ouais, c'est au moins ça.
Oh non, exactement, c'est un débat d'idées. J'adore
exact,
ça.
Exact.
Est-ce qu'il est envisagé de rendre l'accès aux piscines publiques gratuit comme à Québec? Madame Demers, je commence avec vous.
Ben en fait, c'est quelque chose qui pourrait être possible, tout à fait. Les piscines publiques, il y a des gens... On dit hein, qu'à Lévis, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des piscines déjà dans leur cour, mais c'est pas tout le monde. Fait que oui, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être regardé.
Monsieur Bonin?
Moi, les tarifications pour les usages, une ville a quand même un mandat de donner des services à l'ensemble de la population et ne pas discriminer. Tu sais, si quelqu'un se prive de la piscine parce que ça coûte quelque chose, ça, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Fait que oui, là, c'est sûr qu'il faut regarder ce genre de choses. Moi, l'utilisation par tarification, je suis plus ou moins chaud à ça.
Monsieur Blainley?
On parle beaucoup de ça aux portes, notamment la tarification avec une carte accès, un peu comme le système qu'il y a à Gatineau. Donc, tu achètes une carte et ça te donne accès au plateau, à l'ensemble des plateaux sportifs gratuitement. C'est des choses qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que nos installations sont là pour le monde et on veut en maximiser l'utilisation.
Merci beaucoup à vous trois. On passe maintenant au débat sur les finances publiques.
Oui, autre chose sérieuse, très important dans cette ère, les finances de tous et chacun, vous le savez. Je pense que c'est l'épicentre de la problématique des citoyens, peu importe où on se trouve. En 2025, du côté de Lévis, la dette non consolidée de la ville est estimée à près de 650 millions. Ça représente environ 150 % du budget municipal et de 428 millions de dollars. Alors, celle-ci devrait augmenter jusqu'à 691 millions de dollars en 2027, dans 2 ans, avant de commencer à diminuer en 2028. Mmh. La ville de Lévis est d'ailleurs dotée d'un cadre financier du côté 2024. On est allé là-dessus, dont un des objectifs, c'est de permettre une diminution du poids de la dette sur le budget de la ville. Mmh. En ce qui a trait aux taxes foncières, je vais vous parler des augmentations des quatre dernières années, si vous n'êtes pas au courant. 2022, alors hausse moyenne de 2,5%. 2023, l'augmentation de la taxe foncière était de 1,11. 2024, on se rapproche. L'an dernier, hausse record de 7,7%. Ça incluait la taxe foncière et les tarifs des services comme l'eau, la gestion des déchets, très important. 2025, hausse moyenne de 2,9% pour le résidentiel, une proportion de 3,3% pour le compte de taxes globales. Ça inclut la taxe foncière et tarifs. On vous demande maintenant de vous proposer, peut-être entre vous, mais surtout de proposer aux auditeurs et aux électeurs votre vision des finances publiques en une minute. Par la suite, bien, vous aurez toujours le deux minutes pour débattre avec chacun de vos opposants. L'ordre des présentations commence avec Mme Demers.
Merci. Alors, c'est un sujet qui me touche grandement, étant la présidente du comité de finances à la Ville de Lévis. Là, on a fait la mention des années avec les taux de taxation. Je vais rajouter la taxe de 2021. Vous ne l'avez pas fait. Moi, j'étais là à ce moment-là et c'était zéro. Alors, moi, je me suis amusée à faire la moyenne des cinq dernières années et on est à 3,14. Pour la moyenne, parce que là, vous êtes arrêté sur 4 ans, j'aurais pu le faire sur 8 ans parce que j'étais vice-présidente des finances à ce moment-là. Moi, je vais vous dire, des soubresauts, on n'en veut plus et c'est pour ça qu'on a dit la taxation sur les 4 prochaines années, on va à l'inflation. On n'ira pas plus haut que l'inflation. Le plus beau dossier qui a été réalisé le temps que j'étais là avec M. Laulier, c'est le cadre financier. On a maintenant un cadre et on sait où est-ce qu'on s'en va. Quand on parle du taux de la dette qui est sur les revenus, on parle de 151% des revenus sur la dette. Avec le cadre financier, on devait finir à 156 à la fin 2024. On est déjà meilleur après un an. On est une ville où on fait des investissements. C'est normal d'augmenter le taux de dette parce qu'on investit.
Merci, Mme Demers de Lévis. Force 10. Serge Bonin, à votre tour.
Bien, dette élevée, niveau de taxation au-dessus de la moyenne, c'est des faits. Lévis est rendu là. Là, on veut tous plafonner les taxes à l'IPC, mais notre équipe, c'est la seule qui propose des mesures concrètes. Gel des embauches. Il y a eu 22 % d'augmentation en 2 ans de la masse salariale. Donc, on gèle 1 an, sauf policiers et pompiers, le temps d'évaluer pourquoi ça a explosé et pour mieux définir nos besoins réels. On va regarder la diversification des revenus, mais pas de nouvelles taxes pour les citoyens et les citoyennes. Ils en ont assez dans leur cours. On va affecter une ressource à la recherche de partenariats, de philanthropie, de subventions. Et je suis convaincu qu'on en échappe. On peut faire mieux. On va écouter les employés sur le terrain, prendre leurs idées pour améliorer les processus. Ils sont les mieux placés. Ils ont l'expertise. Il faut briser les silos entre les directions, se donner des objectifs clairs. On est capable de plus d'efficacité. On a embauché plusieurs cadres, mais il manque des gens sur le terrain au service. C'est ça qu'il va falloir regarder, mais on va prendre le temps de le faire. Nous, on ne fera pas de grands projets tant que la dette ne sera pas revenue à un ratio raisonnable. Depuis 2013, la population a augmenté de 13 % pendant que la dette a augmenté de 103 %.
Merci, M. Bonin. C'est comme ça que vous voulez repenser Lévis de votre côté, Stephen Blainey. Prospérité Lévis, qu'est-ce qu'on propose? Comment on voit les finances?
Bien, écoutez, vous l'avez mentionné, le ratio de la ville de Lévis est de 152 %. Celui de Québec est de 80 %. Le service de la dette est de 20 %, soit 20 sous sur chaque dollar de taxe qu'on paye va au service de la dette. C'est le maximum légal. Donc, on est au plafond. C'est trop et c'est préoccupant. On a besoin d'un redressement et d'une gestion rigoureuse. Comment? D'abord, par la levée du moratoire le plus rapidement afin d'éviter des pertes de revenus de 150 millions de dollars et générer des revenus additionnels. Deux, couper dans la paperasse les procédures bureaucratiques inefficaces. Favoriser les partenariats avec les organismes à but non lucratif, comme je le mentionnais pour le stade Georges Maranda, pour les projets d'infrastructures sportives et communautaires, on pense au mouvement sportif Lévis, afin de maximiser le dollar du citoyen par l'effet de levier. Mettre fin à la multiplication des projets tout acabit qu'on a vu dans les dernières années avec des dépassements de coûts de 100 millions de dollars et plus et utiliser le paiement au comptant pour les projets du plan quinquennal d'immobilisation et enfin affecter 100% des surplus budgétaires annuels au remboursement immédiat de la dette municipale pendant l'ensemble du premier mandat. On le doit aux prochaines générations.
Merci, M. Stephen Blainey. Je vous rappelle, pour les auditeurs, hein, vous êtes à Boulevard 101, dans On en jase, c'est un débat pour ce qui a trait à la candidature officielle, celui qui va briguer ou celle qui va briguer la mairie de Lévis dans les prochaines semaines. Vous pouvez poser vos questions au 88-971-1021. Maintenant, on passe à l'ordre des duels. Premier duel, en fait, ce sera entre Mme Isabelle Demers et Serge Bonin. Mme Demers, la parole est à vous.
Merci beaucoup. On a parlé des gels d'embauche. Au mois de novembre, 23 novembre 2023, on a adopté de façon unanime au Conseil de ville un plan d'effectifs pour les 5 prochaines années. Alors, on parle d'un gel d'embauche. On a adopté un plan d'effectifs unanimement. M. Bonin était là. Et aujourd'hui, je ne sais pas, moi, lequel des deux Serges que je dois croire. Celui qui était d'accord avec le plan d'effectifs ou celui qui dit on doit passer avec un gel d'embauche. Je fais confiance à l'administration, à la direction générale. D'ailleurs, M. Bonin a voté contre l'embauche du directeur général actuel. Ça va être beau pour les 4 prochaines années. Et je me dis, on parle d'un gel d'embauche. À chaque fois que quelqu'un part, soit à la retraite ou quitte la ville, il y a toujours une réorganisation de postes qui est faite. Et nous, ce qu'on a dit, au niveau des policiers, 35 policiers de plus dans les 2 prochaines années, on veut des gens sur le terrain.
Monsieur Bonin, vous voulez répondre?
Oui, ben là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein, mais j'ai voté contre le contrat du directeur général, 10 ans sans clause de résiliation, donc sans aucune protection pour la ville. C'était uniquement la raison.
On peut pas voter pour ou contre à moitié.
Ben, oui, on peut.
Mais non, on prend une décision.
Ben voilà, c'est ça.
Oui ou non.
Donc, on explique les raisons pourquoi on vote contre. Hein. Le plan quinquennal des effectifs, je vous rappelle exactement ce que j'ai dit lorsqu'on l'a adopté. J'ai dit, je prends ça comme un objectif, mais vous allez me justifier chaque embauche et je n'ai eu aucune justification. Et là, maintenant, le plan est élastique. On a changé les chiffres, on a changé les montants. Donc, je n'accepte pas ça.
C'est pas vrai.
C'est clair. Ben voilà.
C'est pas vrai. Les montants et les effectifs n'ont pas été changés.
Moi, j'ai une question sur le cadre financier.
Oui, tout à fait. Hein.
Votre cadre financier repose sur le PQI. On savait, là, on l'a adopté parce qu'il y en avait zéro. Là. Nous, on l'a demandé depuis le début du mandat. Ça a pris 3 ans avant qu'on ait un cadre financier. Et dès qu'on l'a adopté, on a coupé 11 millions dans le pavage et on a coupé 11 millions dans le paiement comptant. Et quand on ne fait pas du paiement comptant, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte, on se donne des intérêts, ça coûte plus cher. J'aimerais ça savoir pourquoi vous n'avez pas respecté votre cadre financier la première année.
On a tout à fait respecté le cadre financier. Merci. Renflouement des réserves, on l'a respecté. Maintien d'un montant pour risque de 3 % a été respecté. Et même cette année, on a fait 8 millions de remboursements anticipés sur la dette. Quand je vous dis, après un an, on avait déjà fait mieux avec notre cadre financier et c'est ce qu'on va continuer de faire dans les prochaines années.
Le paiement comptant est mentionné 5 fois dans le cadre financier. Donc, ça doit être une pierre angulaire assez importante.
Les finances, hein, ça fait réagir à chaque fois. Assurément, c'est directement dans la poche des contribuables.
Exact.
Pour le deuxième débat, on a 2 minutes entre Serge Bonin, Stephen Blainey, M. Bonin, vous commencez.
Oui, bien, je vous ai entendu dire qu'il n'était pas question pour vous de diversifier les revenus. Et là, vous vous basez sur l'étude de Raymond Chabot de Grant Thornton qui dit, bon, voici les taxes qui ont été faites ailleurs. Il y a d'autres moyens de diversifier les revenus. J'aimerais savoir c'est quoi votre plan de match, parce que vous dites toujours, vous allez couper dans l'administration. On ne sait pas c'est quoi votre plan de match. Qu'est-ce que vous allez faire précisément? Nous, on dit, on ralentit les embauches, on va prendre le temps de l'étudier, puis on dit, on va diversifier les revenus avec des subventions puis avec des partenariats, avec de la philanthropie. C'est quoi, vous, votre plan de match?
Bien, je pense que vous n'avez pas écouté la dernière minute où j'ai vous exprimé l'ensemble des mesures. Par contre, j'aime bien quand vous utilisez le mot dans votre plateforme diversification, éco-fiscalité. Fait que dans le fond, on dit, on ne montrera pas le compte de taxes, mais on va aller chercher l'argent
ailleurs. J'ai toujours pas eu de réponse. J'aimerais ça que vous le répétiez.
Deuxièmement, vous dites aussi, on vient de voir un exemple d'improvisation. Vous dites,
on fait
un gel d'embauche en campagne électorale, mais quand vous êtes là, vous votez pour plus de monde. Puis je dois vous dire, moi, je suis totalement contre le gel d'embauche parce qu'on a besoin d'avoir les meilleures personnes les plus compétentes à la ville de Lévis. Et c'est pas vrai qu'on va aller dans le syndrome du saclic pour aller chercher des ressources externes. De payer une fortune.
Est-ce que vous trouvez acceptable 22 % d'augmentation de la masse salariale en 2 ans? Et je veux toujours avoir vos mesures, je ne les ai pas.
Bien, vous avez juste à regarder, ils sont tous dans notre plateforme.
Ah, bien oui, c'est
regardez
facile.
Regardez donc, vous. Moi, j'ai la question. Qu'est-ce qui est dans votre plateforme aussi? C'est les promesses dans votre plateforme. Vous voulez créer une table de liaison, des ressources à temps
bien
plein,
sûr.
De la recherche, des registres de locaux, des plans de conservation, conseil des arts. Hey, ça en fait des affaires, ça. Allez-vous donner des multitâches? Comment vous allez faire pour
tout
faire
ça va être fait
tout ça va être fait
après
par
qu'on ait diminué
magique.
La dette.
Ben
c'est
oui,
ça qu'on s'attend. En premier,
vous voulez
3 promesses.
Le développement n'ayant pas de moratoire,
on a
est-ce qu'à
cause
d'un exemple d'argent chez Repensons
Lévis?
Ouais,
vous nous avez toujours pas dit comment vous alliez couper le moratoire, ça c'est clair. 3 promesses, entretien des infrastructures, baisse de la dette, plafonnement des taxes à l'IPC.
Parlons-en.
Mais vos promesses, j'ai aucune idée comment vous allez les faire.
Parlons-en du rattrapage des actifs. Dans le cadre financier, il y a un déficit sur le rattrapage des actifs. Présentement,
bien
on
sûr.
Doit investir davantage pour maintenir nos infrastructures et
totalement.
C'est exactement ce qu'on veut faire.
J'ai voté 4 fois contre la liste des grands projets.
Amoureux des infrastructures.
Je me suis opposé à toute la liste des grands projets à chaque fois parce qu'on n'avait pas le droit de regard dessus.
Merci, M. Bonin, M. Blainey. Alors, on termine l'ajout des débats en ce qui a trait aux finances.
Madame
de la
Donner,
ville.
Vous avez été oui, vous avez été présidente du comité des finances. Je veux que vous m'expliquiez une chose. On sait, la ville a connu une croissance phénoménale. Alors, ça va être bon, revenu de taxation, revenu d'évaluation foncière, taxe de bienvenue, taxe de développement. On se dit, coudonc, il en rentrait du cash. Et là, on se ramasse que, finalement, la situation financière de la ville, on l'a vu, on est très endetté. Le service de la dette est au prélard. Puis en plus, on n'a pas les infrastructures pour répondre à la demande. Et pourquoi on ferait payer le citoyen pour les pots cassés de cette planification-là? Où est allé l'argent de toute la, qui provient de tout le développement phénoménal qu'on a connu au cours des dernières années?
Bien, je vais vous apprendre quelque chose ce matin, M. Blainé. C'est que quand on commence une construction, la taxe ne rentre pas le lendemain. Il faut attendre que la construction soit complétée avant qu'on puisse taxer.
Il y en a pas mal de construits là, avec toutes les tours, la tour Fitz là, et compagnie. Là, c'est construit, ça. Là.
Alors, ce qui se construit présentement...
Et où est cet argent-là?
Elle est dans les investissements qu'on a fait dans nos usines d'eau. Dans les investissements qu'on fait dans nos usines d'eau usées, dans les bibliothèques, dans nos parcs. On a fait des très beaux parcs.
Madame Donnerre, l'eau potable. Oui, vous avez fait beaucoup d'investissements dans des projets d'embellissement avec des dépassements de coûts de 100 millions. Mais je peux vous dire
que j'étais avec Jean Charest.
Bon, on l'a vu tantôt.
C'est quel
faire
projet?
Rechanger des façades de complexes sportifs, ça ne donne pas plus d'heures de glace, ça ne donne pas plus un temps de qualité.
100 millions, quel projet, M. Blainé?
Ah, ben, j'ai toute la liste ici,
je peux
même la publier, si vous voulez.
Non, mais vous parlez d'un projet, c'est quel projet?
Là, vous m'avez coupé la parole, vous me faites perdre mon idée, parce que vraiment, j'aimerais savoir pourquoi on n'est pas en mesure de faire en sorte qu'on doit consacrer 300 millions du prochain PQI aux stations de traitement des eaux usées. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'usine d'eau potable, ça, c'était bien avant le dernier mandat. L'ai annoncé avec M. Harper et M. Charest. Les deux gouvernements ont contribué. Et je vous rappelle aussi
Blainé,
176 millions qui ont été investis de 2021 à 2024 pour nos usines d'eau. 176. C'est pas vrai là, que ça fait des années que c'est comme ça. Là. Ça fait très longtemps. 324 millions présentement pour le prochain PQI. C'est normal qu'on demande aux promoteurs avec les redevances.
Donc, pas de priorité. Donc, trop de priorité, pas de priorité, beaucoup de dettes.
Merci.
Plein de priorités.
Assurément, ça fait réagir. On va passer à la question d'un auditeur ou d'une auditrice qui demande quelle est votre vision concrète pour doter Lévis d'un véritable centre-ville. Vous aurez chacun 10-15 secondes pour répondre, M. Bonnet.
10-15 secondes. Bien, il y a deux centres-villes à Lévis, mais il y en a un où il y a encore de la place. Il faut commencer par acheter les terrains. C'est la première chose. On parle beaucoup de l'amphithéâtre. Je pense que les trois candidats ici sont d'accord avec cette idée-là. M. Tanguay parlait de 8 000 à 10 000 places. Il faut voir loin 50 ans. Je trouve ça ambitieux, mais je trouve ça intéressant. Moi, je pense qu'on devrait le doter d'un quartier des spectacles, des espaces muséaux, des espaces pour socialiser. Pour moi, le développement de l'être humain, ça passe par à la fois la socialisation, la culture, le sport et l'intellectuel, donc l'université là à côté pour combler le tout.
Madame Demers?
En fait, j'ai déjà annoncé qu'on va remettre le centre d'archives au... Je voudrais le faire le plus... Ça fait 25 ans, 23 ans qu'on parle dans la nouvelle ville d'un centre d'archives qu'on n'a pas. On veut une salle de spectacle au Cégep. On veut une vraie salle de spectacle. Alors, le centre-ville... présentement, ça se développe du côté d'Alphonse Desjardins. Il y a aussi le centre Saint-Romuald, qui est un pôle qu'on doit continuer de développer.
Merci, Mme Demers. Pour vous, M. Blainé.
Bien, écoutez, le quartier historique de notre grande ville, c'est le quartier du Vieux-Lévis. Et si on veut avoir une véritable revitalisation, c'est d'abord en s'assurant que c'est un quartier qui est sécuritaire. C'est la raison pour laquelle on a l'intention de faire en sorte que les quartiers soient sécuritaires. Et avec ça, on va attirer les investissements pour faire en sorte qu'on puisse avoir aller consommer notre culture et tout ce qu'on aime à Lévis et pas d'aller à Québec ou même en Beauce.
Merci beaucoup, M. Blainé. J'aimerais vous remercier à chacun de vous, les trois candidats et candidates. Ce fut un débat très intéressant sur les idées. Franchement, Lévis a le choix entre trois candidats, candidates de très grande qualité et je crois que les gens de la ville de Lévis sont bien chanceux.
Nous autres aussi, on est chanceux.
Ouais, exactement. C'est maintenant le temps de passer à la fin de ce débat. Donc, je vous laisserai une minute pour mentionner à nos auditeurs, aux citoyens de Lévis, pourquoi ils doivent voter pour vous. On commence avec M. Serge Bonin de Repensons Lévis.
Le SRB, c'est 100 millions pour plus d'efficacité, mais pas tout de suite. On élargit la 20 d'abord pour garder la fluidité. Les voies réservées de mes adversaires, c'est un mauvais projet qui va coûter 525 millions pour terminer les 14 kilomètres. En mobilité, on est du bon côté de l'argument. La croissance à grande vitesse a mené à une explosion de la dette, des taxes, un moratoire. C'est pas normal, c'est pas un bon bilan. Il faut planifier à long terme, c'est ce que les adversaires commencent à dire. En développement, on a toujours été du bon côté de l'argument. On a des propositions concrètes pour réduire la dette, pour redresser les finances. Le cadre cadre financier, on partait de rien. Là, on doit être plus agressif. On doit aussi se payer ce qu'on est capable de se payer, préparer les projets, attendre au bon moment quand on aura l'argent. Et en finance, on est du bon côté de l'argument. On veut ouvrir les livres, permettre aux gens de décider, de participer au changement, de se prononcer dans les décisions. On est clairement tourné vers les autres. On ne fait pas du tourisme municipal. On est dedans depuis 4 ans à fouiller la ville de Fontaine-Comble. Ce qu'on propose, ça demande du courage, de l'audace. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on prépare. Faites-nous confiance. On s'en va là ensemble.
Merci, M. Bonin. On passe à M. Stephen Blaney de Prospérité Lévis.
Bien, merci à Boulevard puis aux autres candidats pour leur participation. On voit qu'à Lévis, on peut avoir des débats passionnés, mais civilisés. Donc, Lévis est à la croisée des chemins, forte mais endettée et bloquée, congestion routière, densification sans planification. Reprenons en main nos finances et notre développement. Non à un SRB idéologique, coûteux et sans gains significatifs. Oui à une saine gestion et une rigueur financière. Non à un référendum. Avec Stephen Harper, j'ai appris à contrôler les dépenses. Lévis en a grand besoin. Je sais compter. Le 3 novembre, j'ai 3 priorités. Préparer un budget équilibré dès décembre avec le pied sur le frein sur les hausses de taxes qui réduira la dette. 2. Dans les 4 premiers mois, planifier la levée du moratoire, donner de la prévisibilité pour des habitations abordables, des services de proximité et pour générer des revenus. Et 3. Ben pour la mobilité, on veut l'élargissement de l'autoroute 20 ouest au plus pressant. Et qu'on renonce, bien sûr, au lien central actuel qui n'apporte aucun gain. Donc, rendons Lévis plus sécuritaire avec une escouade anti-gang. Merci. Le 3 novembre, votez Équipe Prospérité Lévis, Stephen Blaney.
Merci, M. Blaney. Madame Demers, on conclut avec vous.
En fait, moi, je vais rappeler aux gens de voter le 2 novembre, ah oui, merci, et non pas le 3.
Ben oui, parce que le 3 va être trop tard.
Exactement.
Merci, Madame Demers.
Merci, Boulevard, de votre écoute. Merci aux auditeurs et surtout de votre intérêt pour l'avenir de notre ville. Aujourd'hui, on a parlé de développement économique, planification, entretien, nos infrastructures, du logement, de la mobilité, qualité de vie et des finances publiques. Ce sont des enjeux majeurs et je suis prête à les prendre, ces enjeux-là, et continuer de les relever. Je ne vous propose pas des grandes promesses irréalistes. Je vous propose un plan clair, une vision solide et un engagement sincère de faire avancer les vies avec vous. Je veux une ville où on grandit intelligemment, une ville qui soutient ses organismes et ses entreprises, attire des talents, mais aussi qui protège ses milieux de vie et qui aménage son territoire avec équilibre et respect. L'équipe de Lévis Force 10 veut continuer le travail qui a déjà été commencé et on veut le faire aussi avec les nouvelles personnes de mon équipe, le vent de fraîcheur. Merci pour et je vous invite pour le 2 novembre.
Merci beaucoup, Mme Demers. D'ailleurs, le 2 novembre prochain, à compter de 19h30 sur les ondes de Boulevard 102.1, ce sera émission spéciale soirée électorale. Donc, on va couvrir Québec, Lévis. On sera également diffusant simultanément à Montréal. On vous parlera là-bas également des grands enjeux de la métropole. Alors, c'est à ne pas manquer dimanche, le 2 novembre prochain, compté de 19h30. Messieurs, mesdames, je vous souhaite bon succès dans le reste de votre campagne électorale. Je sais que vous avez d'autres débats intéressants également cette semaine dans les différents médias là, de la grande région de Québec et de Lévis. Merci de vous être déplacés aujourd'hui à Boulevard 101 et je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci.
C'est un plaisir. Défi, hein? C'est long faire court.
Ouais. C'est ça, exactement. La parole est à vous, chers auditeurs. 418-971-1021, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Nous, on vous donne votre opinion après cette courte pause. Vous êtes à l'émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 102.1. Peut-être qu'à 13h01 exactement, vous êtes moins à la commande à l'auto. À la météo, 14 degrés, 40% de possibilité d'averse. Pour demain, c'est de la pluie, 10 à 20 mm, 10 degrés. Également des averses pour jeudi et vendredi avec 11 degrés. Je fais le tour de plusieurs textos qu'on a reçus. Merci de participer en si grand nombre au 418-971-1021. Ici, quelqu'un dit « Serge, pour président, je ne suis pas péquiste.
Bon. »
Donc, quelqu'un qui a apprécié le débat, qui a apprécié Serge Bonin. Et on a complètement un commentaire différent de la part de Carl qui nous dit « Ah, Serge Bonin, il coupe toujours la parole au monde. Un vrai gauchiste qui le dit. Voterai pas pour lui. » PO qui parle justement de gens qui s'interrompaient. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que ça allait quand même bien, beaucoup mieux que Sam Hamad avec Bruno Marchand, si vous voulez mon avis. Merci pour le débat. Ça fut très bien réalisé, justement, beaucoup mieux que ce qu'on a entendu sur vos ondes pour le débat de Québec. Mais merci, ça fait plaisir. Très bon débat. Mon choix est fait grâce à vous. Good job, Pascal Anto. Et Jeff, c'est Eric qui écrit ceci. Donc, Eric, si tu veux nous dire ton choix, libre à toi, mon ami. Bonin a vraiment gagné ce débat, selon un auditeur, une auditrice. Blainey avait toujours l'air en colère. Et nos impressions familiales, ça, c'est le fun. J'adore.
C'est le texto que je voulais lire parce que je le trouve intéressant.
Vas-y,
dans la vision.
Lis-nous ça.
On parle souvent de défis, d'enjeux. Quand on vient à faire des débats, c'est normal. Je veux dire, c'est le pouls de la population. La personne dit, suite au débat, c'était pas très clair pour nous, un peu trop concentré sur les difficultés, les défis existants. Ils nous ont pas fait beaucoup rêver pour la ville. Alors, est-ce qu'on peut être fier de quelque chose? Qu'est-ce qu'on a fait de bien et ce dont on peut être fier d'y vivre? On a parlé énormément de développement, mais qu'est-ce qu'il y en a pour la conservation de nos milieux naturels aussi? Il y a des gens qui manquent un peu là, de gravy dans les affirmations des candidats. En voulant dire, on parlait des enjeux du négatif, mais comment est-ce qu'on peut nous faire rêver d'habiter à Lévis?
Antonine, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat?
Bien, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout couvrir dans un seul débat.
Non, non, exactement.
C'est pour ça qu'il faut suivre la campagne électorale au quotidien, parce que, par exemple, les milieux naturels, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans ce débat-là, mm-hmm. mais ce sera peut-être abordé à d'autres occasions. Ce que je trouve intéressant avec la campagne à Lévis, c'est que tout est possible. Là,
oui.
Quand cette campagne-là a commencé, il n'y a rien qui est acquis pour personne. Au début, il y a des gens qui disaient « Ah, c'est sûr que Stephen Blainey va gagner. » Mais ce n'est pas si sûr que ça, là, que Stephen Blainey va gagner. Après ça, Isabelle Demers qui incarne davantage la continuité. Et Serge Bonin, qui était ben, le chef de l'opposition. Donc, on a trois profils différents. On a trois gros profils quand même. Là. C'est des candidatures qui sont toutes les trois solides et qui pourraient l'emporter, là, en théorie, en tout cas sur papier. J'ai trouvé que c'était un débat où, oui, OK, des fois, on se coupe la parole dans un débat, mais c'est normal. Là. C'est pas
ben
un
oui.
salon de thé non plus. Là. On fait de la politique. Si,
on
là,
est en
correct.
Désaccord, on n'est pas dans
ah,
le
oui.
même parti.
Il y a de l'émotion qui ressort, c'est
ben
tout
oui.
à fait normal. Là. C'est ce qu'on veut.
Puis on veut voir aussi le caractère des gens. C'est-à-dire, tu sais, des fois, il faut se battre. Quand tu es maire mm-hmm. d'une ville, tu vas aller au battre sur plein d'affaires parce
oh, ouais.
que, notamment, il y a plein de clés qui ne sont pas entre les mains de la municipalité, mais à Québec, à Ottawa. Donc,
ben,
il faut aussi qu'ils nous montrent son battant.
Juste à penser à deux grosses batailles qu'il va avoir à livrer, le fameux troisième lien périphérique à l'Est puis l'élargissement de l'autoroute 20, qui sont des projets sur la glace à l'heure actuelle là, par la CAQ. Pascal, tu retiens quoi de ce débat?
Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a au moins deux candidats. Est-ce que j'ai besoin de nommer les candidats qui avaient l'air un petit peu, pas en alliance, mais du moins en accord
à connivence.
de connivence.
Pour voir réserver contre SRB, il y en avait deux qui se faisaient des fist bumps.
Il y a ouais. un moment où ils se sont tapés dans la main et je me dis, bon, oui. peu importe qui sera élu, est-ce qu'on aura des fusions entre partis à un
vrai,
moment?
C'est vrai, c'est un bon point.
Certainement, M. Bonin, bon, sortait un petit peu de la masse dans certains enjeux. On était dans la différence. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est toute la différence entre partis d'opposition, qui est déjà en place avec M. Mm-hmm. Bonin, et parti qui est, bon, celui anciennement de M. Laulier, mais Mme Demers en fait partie,
oui.
puis c'est elle maintenant la chef pour la prochaine élection. Il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que, rappelez-vous, on a parlé d'un vote unanime face mm-hmm. à quelque chose, puis quand on est rendu en campagne électorale, finalement, on s'affronte là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce un jeu politique? Antonine, t'en penses quoi?
Mais j'ai trouvé ça bon de la part d'Isabelle Demers de rappeler, attention, là, on m'attaque là-dessus, mais vous avez voté pour ça, vous.
Ouais.
Après ça, elle a très bien répondu aussi à Stephen Blainey qui l'attaquait sur un dépassement de coûts de 100 millions, puis elle l'a pas lâché.
Bon, ouais,
elle dit, lequel?
Lequel?
C'est quoi
projet?
Ce projet-là? Ben, j'ai la liste ici, là, je vois pas
toutes
les
noms.
Mais il y a eu de la difficulté à répondre, puis mm-hmm. il a dévié finalement la question. Donc, c'est sûr qu'elle, elle est la cible des attaques parce qu'elle porte un bilan sur ses épaules. C'est la dauphine de M.
Laulier.
Donc, elle est un petit peu plus sur le feu des attaques. Puis, elle aurait pu aussi être, disons, en fait, c'est qu'au au début de la campagne, on avait l'impression que c'était M. Blainey qui serait un peu le favori. Donc, il y a beaucoup de ces attaques qui s'adressaient finalement à M. Blainey. Mais finalement, on se rend compte que M. Bonin fait une campagne qui est hyper organisée, qui a une grosse machine en arrière de lui. Puis je pense que les deux autres candidats ont réalisé en bout de ligne que c'était vraiment pas gagné là, face à M. Bonin.
Pour Mme Demers, qui justement porte sur ses épaules le travail de M. Laulier, d'abord et avant tout.
Qui est partie avec un haut taux de satisfaction,
exact.
Faut le dire. Oui.
Tu vois comment le fait de défendre... Est-ce que tu penses qu'elle est un peu victime de M. Laulier ou elle doit être dans la continuité quand elle vient en débat comme ça?
C'est sûr que le bilan est mitigé, dans le sens qu'il est parti, il était très populaire, M. Laulier, des taux de satisfaction quand même élevés, mais la maison n'était pas tout en ordre.
Il est parti quand même avec un moratoire, une hausse hausse de taxe de 7,7% en 2024. T'sais, c'est une quand dette, même ouais. une dette.
Elle doit-tu le défendre ou elle doit se dire, ben non, moi, je suis madame de maire.
Elle oui. se retrouve à l'expliquer. Puis elle peut pas s'en laver les mains. Elle était là. Là. Mm-hmm. Elle n'est pas arrivée de nulle part.
Ah oui,
là.
Puis c'était la responsable des finances.
Ben oui. Non, elle peut
Donc,
pas.
Le cadre financier, c'est Isabelle Demers
Donc,
qui l'a
implanté. Donc, il y a une partie de ses messages qu'elle n'a pas le choix d'être en mode un peu plus défensif. Mm-hmm. Mais vous voyez, elle répond, mais après ça, elle s'en va à l'attaque. Donc, c'est quand même une bonne communicatrice, somme toute, mais elle doit porter ça.
Je trouve qu'elle l'a bien fait. Ouais. Elle m'a étonné. Moi, je me disais, hey, t'arrives avec un moratoire, une hausse de taxe de 7,7, une dette hors de contrôle, un PQ
qu'elle avait beaucoup de
but réduit. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. T'sais, Gilles Laulier, il n'a pas rendu la vie facile, mais j'ai trouvé que c'était très structuré, sa pensée. Honnêtement, elle m'a épaté dans
Elle est calme aussi. On peut peut-être
c'est
parler
bon
du
point.
Contenant, pas juste oui. du contenu, mm-hmm. de la part des trois candidats. T'en penses quoi? Parce qu'elle, elle s'est présentée comme une femme assez calme, elle laissait parler, elle arrivait, bon, quand c'était le temps dans le débat.
Ouais.
Mais...
Elle se réchauffait, par exemple, au début. Je trouvais qu'elle se laissait un peu manger la sur le dos, puis après ça, là, elle est devenue plus d'attaque. Je trouve que c'est trois bons communicateurs, somme
oui.
toute. Hein? Ils sont
oui.
bons tous les trois avec leur style un peu différent. Oui, ça ressort plus du côté du calme, effectivement, du côté de Madame Demers, mais je dois, tu sais, moi j'aime ça les communications, puis je suis très passionnée par ça. Puis l'art de répondre à la question brièvement, mais de revenir à l'attaque avec tes idées, avec tes messages, puis de revenir avec un autre angle, je trouvais qu'elle le maîtrisait très bien pour quelqu'un qui est évidemment mm-hmm. la cible des attaques.
Elle passait ses idées en
oui.
question aussi.
Oui,
ben,
c'est
en
vrai.
Fait,
les
trois ont
fait
ça.
Les trois ont fait
ça.
Les trois ont fait ça. Somme toute, excellent débat. Je remercie encore une fois les trois candidats qui ont débattu d'idées. J'ai adoré. Serge Bonin est peut-être le plus rêveur avec le SRB.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est à voir vers quel profil les gens de Lévis vont se tourner. Mais chose certaine, à Lévis, vous avez trois excellents choix devant vous.
Vous avez une campagne.
Vous hein? avez une belle
vous?
Campagne.
Vous avez une campagne.
Oui, je suis jaloux des gens de Lévis.
Le monde de Montréal pourrait vous en parler. Nous aussi, c'est à ça. Québec, quand même, on a, oh, on a une campagne en levante, là, mais à Montréal, les gens n'arrêtent pas de dire que c'est
ouais.
plate, c'est plate, c'est plate. Nous autres, dans la région,
ouais, nous autres,
c'est pas plate.
En levante, en chicane. Là,
ouais.
celle-là
à
est
Québec.
En levante. Ouais.
Là,
à
on
Lévis,
est plus
en levante en idée. Allez lire les plateformes électorales. Faites votre choix. Allez voter en grand nombre le 2 novembre. C'est très important. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de ce débat. On fait une courte pause et par la suite, on n'y a pas parlé la semaine passée parce qu'il a remplacé Dutrisac sur le 99.5. Puis après ça, j'y ai dit, Villemur, dehors du studio, c'est Bruno Marchand qui s'en vient. Mais là, il faut bien y parler. Les gens s'ennuient. Ils m'ont texté personnellement. Ils m'ont dit, quand est-ce que Rémi Villemur vous reparle? Bien, ça va être immédiatement après cette courte pause. On va notamment parler, là, Rémi, il me dit, hey, moi, là, j'ai vu des chiffres que les gens n'ont pas vus dans le sondage à souveraineté. Il a creusé quoi, notre ami Rémi Villemur? C'est ce qu'on va savoir après cette
Anto,
courte pause.
T'es sûr que tu dois partir?
Oui, mais je vais laisser toute la place à Rémi.
C'est
ça, garde entre bonnes mains.
C'est pour la souveraineté.
Exactement. Alors, on fait une courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101. Rémi Villemur qui suit par la suite. Il est présentement 13h17 minutes. Ce sera le temps d'aller rejoindre notre ami Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. On avait une excellente discussion sur les élections municipales hors d'onde parce que à Montréal, Rémi, tu me disais, Soraya Martinez est en avance de 10 points.
Oui, dans le dernier sondage que j'ai vu passer, c'était à peu près 10 points. Ça ne m'étonne pas du tout dans la mesure où il y a un vote de contestation fort à Montréal qui commence à se consolider autour de Projet Montréal. Les gens sont tannés. Et la stratégie de Soraya Martinez, qui est, à mon avis, une stratégie douteuse sur le plan démocratique, elle fonctionne quand même. C'est quoi cette stratégie-là? C'est de consister à répondre à chaque fois qu'on lui demande « qu'est-ce que vous allez faire? » On va consulter. Donc, elle répond toujours « on va consulter
mm-hmm. ».
Et c'est habile de sa part. Je ne sais pas c'est qui a inventé ça de son côté, mais c'est très habile parce que dans les dernières années, ce qu'on reprochait à Projet Montréal, c'était de ne pas consulter.
Ouais.
Ou alors de consulter et d'aller dans le sens contraire des résultats de la consultation. Et là, ce que Soraya a dit, bien écoutez, sur la question des pistes cyclables, je ne vous dis pas il va en avoir combien plus, je vais consulter. Ah, sur la piétonnisation du Vieux-Montréal, je ne vous dis pas si on va le faire, je vous dis qu'on va consulter. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'une élection, c'est une consultation. Donc, j'aurais préféré qu'elle présente des projets, des idées, et que l'élection soit un plébiscite sur ses idées et ses projets. Mais elle a réussi, et c'est habile, sur le plan de la rhétorique, de dire non, les idées vont venir après l'élection. Mm-hmm.
Tu vois, Respect citoyen prend possiblement là, la même tangente ici à Québec de dire « Ah, réseau de transport structurant, on met ça sur pause, on va consulter, puis on va revenir avec le projet que la population veut. Telle chose, on met sur pause, on va consulter la population. » Mais présentement, en raison des chicanes avec sa mamade, ça ne porte pas fruit comme ça porte fruit là, pour Soraya Martinez. Là. Tu voulais nous parler, Rémi, du sondage Souveraineté. Ça a fait la manchette tout le week-end dans les journaux de Québécois. Et là, il y a un sondage qui a été publié lundi. Il y a peu d'appétit pour la souveraineté. Qu'est-ce que tu as vu, toi, derrière ce sondage-là? Tu me disais, hey, Jeff, je veux te parler des dessous du sondage.
Oui. Ben, avant toute chose, moi, je ferais juste quand même noter, on note tous, sans exception, un rapport trouble au sondage au Québec. Parce que je pense que la majorité d'entre nous, on prend ce qui fait notre affaire puis on ne prend pas ce qui fait notre affaire. Donc, quand un sondage ne nous dit pas ce qu'on veut entendre, on dit que c'est rien qu'un sondage. Puis sur la question de la souveraineté, c'est un exemple parfait parce que la souveraineté, elle est projetée dans le futur. Même si on demande aux gens, voteriez-vous oui ou non aujourd'hui, il n'y en a pas de campagne référendaire. Donc, quand le résultat ne fait pas notre affaire, on dit « Ah, ben c'est ça, c'est pour ça, c'est parce que ce n'est pas aujourd'hui, j'en tiens pas compte. » Puis quand il fait notre affaire comme cet été, lorsqu'il était question de ce 48 % des jeunes de 18 à 34 ans en faveur de la souveraineté, moi, le premier, j'étais très enthousiaste là-dedans. Et là, deux semaines après, on apprenait que ça descendait. Puis là, ah, oh, ben écoute, peut-être qu'il y a eu un problème dans la méthodologie. Il faut quand même être honnête. On prend soit les sondages au sérieux tout le temps ou jamais. Moi, je pense que dans ce sondage-là, la question de la souveraineté, elle est peu pertinente dans la mesure où je viens de le dire, il n'y en a pas de campagne référendaire. Je rappelle qu'à un an du référendum d'octobre 95, et là, on n'est pas à un an d'un prochain référendum, là, on est possiblement à deux ans et demi du prochain référendum si le PQ l'emporte en octobre 2026, mais à un an donc du référendum d'octobre 95, le oui était à 33 %. Donc, quand il y a des gens qui me disent « Eh, bah, bah, les souverainistes doivent être déprimés, le oui est à 35 %», je leur dis « Ouais, mais il était à 33 un an avant le référendum d'octobre 95. » Donc, là-dessus, il faut quand même le rappeler. Et comme je vous dis, je ne le prends pas tellement au sérieux parce qu'on nous demande de nous positionner sur un truc qui va survenir plus tard. Mais dans le sondage, pour répondre à ta question, il y a des trucs sur lesquels on nous demande de nous positionner et c'est actuel. Et ça, ça m'interpelle davantage. La question de la Constitution. On demande aux Québécois, vous avez deux choix. On fait la souveraineté demain matin ou on signe la Constitution sans même la réformer. Là. On la signe telle qu'elle. 55 % des Québécois choisissent l'option de signer la Constitution. On demande aux Québécois, est-ce que vous vous identifiez plus comme Québécois, Canadiens, les deux? Québécois, la réponse Québécois, c'est 40 %, c'est 25 % de moins qu'il y a 30 ans. Moi, pour moi, c'est ça les deux sujets du sondage. Comment c'est possible qu'on obtienne des résultats pareils après 10 ans de gouvernement Trudeau? On a souligné ça il y a quelques jours. Ah, 10 ans de gouvernement Trudeau, ça a fait en sorte que l'identité canadienne était floue. On ne savait pas trop de quoi il était question. Immigration de masse, multiculturalisme exacerbé, sur la dopamine, avec un modèle québécois qui était présenté comme étant l'envers de cette...
Donald Trump?
Ben alors,
Pour l'expliquer, c'est tout ça, parce qu'hier, c'est ça, hein, on jasait avec un autre intervenant, puis on pensait, pour Luc Laliberté, que c'est Donald Trump qui a ramené cette fibre-là souverainiste, mais est-ce que c'est pas simpliste de penser que ce n'est que Donald Trump?
Moi, je pense que c'est simpliste de penser que ce n'est que Donald Trump, parce que sur la question, par exemple, de la Constitution, je veux dire, en quoi Donald Trump...
Ouais, puis là, la Constitution, c'est la nuit des longs couteaux, là. Mais là, il y a 55 % des citoyens au Québec qui diraient « Hey, il n'y en a pas de problème finalement avec la nuit des longs couteaux, on signe le papier. »
Tout à fait. Puis la Constitution, je veux juste le rappeler quand même, là, ça n'a jamais été signé par aucun premier ministre du Québec. Puis il y en a eu des premiers ministres fédéralistes là, depuis 82. Là. Jean Charest, Philippe Couillard, on les connaît. J'ai même envie d'ajouter François Legault. Donc, il y a, je pense que cette question-là, c'est quand même douteux, là. C'est quand même louche, ça fait quand même mal pour les souverainistes. C'est peut-être plus douloureux que le 35 % qui veut à peu près rien dire, parce que là, vous vous dites, pendant des années, ça a été un argument non seulement utilisé par les souverainistes pour mobiliser le nationalisme, mais même les fédéralistes ne voulaient rien savoir de ce papier-là. Et on est prêt à le signer. Moi, je pense donc que le fantôme de Donald Trump, c'est court. Ça, c'est même très utile pour certains souverainistes de dire « c'est Donald Trump, puis ça va passer », parce que ça nous incite à ne pas faire l'examen de conscience. Il y a eu des années difficile pour le mouvement souverainiste où on hésitait à mettre de l'avant l'option référendaire. Ça ne fait que depuis 5 ans que c'est redevenu une priorité du Parti québécois, je le rappelle. Pendant des années, on était gêné d'aborder les questions identitaires. Ça a fait son travail, ça, sur l'âme collective, sur la psyché collective des Québécois. Et des fois, c'est des années plus tard qu'on remarque l'effet durable et l'effet inattendu parce qu'on pensait que ça n'en allait pas de même de ce genre de décision-là. Donc, oui, Donald Trump est responsable de certains des résultats du sondage, mais c'est plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui se résignent à être Canadiens parce que être Québécois, ah, c'est un petit peu moins clair. Qu'est-ce que c'est? C'est affirmatif, on est gêné, on hésite à le faire. Donc, on va aller vers quelque chose qui existe déjà. Puis je ne dis pas que l'option fédéraliste canadienne, pour le dire ainsi, est plus clairement affichée. Regardez, là, c'est quoi être Canadien? Criquet. Je veux dire, c'est juste qu'au moins, ben, le Canada, ça existe. Donc, c'est toujours bien plus simple de s'identifier à ça qu'à quelque chose qui est vase.
Écoute, j'ai peut-être une question insignifiante, mais ça ne me dérange pas, je la pose. Je la pose pour ceux qui se la posent puis qui ne le feront pas. Est-ce que c'est juste une mode actuellement chez les jeunes? Ça peut-tu être qu'une mode? 3-4 personnes, 3-4 électrons politisés qui ont trippé là-dessus, qui sont fervents du souverainisme, qui ont des allégeances politiques qui vont de soi, mais que c'est devenu hot d'être souverainiste. Et là, je ne dis pas ça en ayant des préjugés envers personne, je me questionne.
Ah oui. Mais c'est, moi, je pense que ça peut être en partie une mode, puis c'est pas un problème. Regardez, là, quand Pierre-Elliott Trudeau disait en 80, si on perd le référendum, on démissionne de notre poste, que Pierre, il y avait la Trudeau-manie, c'était une mode, ça aussi, là, dans les années 60-70. Une mode, ça veut juste dire que ça passe, mais ça veut pas dire qu'on n'y revient jamais. Ça fait des années que je le dis, les jeunes vont embarquer de façon très, très, très importante derrière l'option souverainiste. Regardez bien dans les prochaines années lorsque ça va devenir viral. Mais là, ça ne peut pas être viral. C'est qui le gouvernement? C'est la CAQ. Est-ce que la CAQ veut tenir un référendum? Non. Quand est-ce que va avoir lieu le prochain référendum? Il est question 2027. Franchement, ça ne peut pas devenir viral encore. Mais lorsque ça va le devenir, et il y a des artistes qui commencent de plus en plus à prendre la parole, Ludivine Reding, on a une chanteuse également, là, dont j'oublie le nom, qui a pris la parole pour l'indépendance la semaine dernière. Il y a des artistes comme Paul Piché qui reviennent dans l'espace public ce matin.
Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne.
Donc, quand ça va redevenir quelque chose de dit, de partagé, d'affiché publiquement, ça va devenir une mode. Et de toute façon, ça prend 50% plus.
Rémi-Pierre Poilievre était dans un podcast à connotation conservatrice. Il était bien évaché dans son divan. Puis là, ben, il s'est senti comme chez eux ou à la taverne avec une petite bière, puis il a laissé tomber. La VRC aurait dû arrêter du monde de l'équipe de Justin Trudeau dans le scandale SNC-Lavalin. Aujourd'hui, Pierre Paulus a pris parole dans les médias. Je te fais entendre justement un extrait de M. Paulus à l'émission de Mario Dumont.
Ben, mal à l'aise. Hein?
Est-ce que la directrice de la GRC n'a vraiment pas fait son travail? Parce que c'est quand même assez surprenant que le Parti conservateur, un parti de la loi et l'ordre, s'en prenne comme ça, la GRC.
Ouais, écoutez, moi, ce qui m'intéresse plus dans cette histoire-là, c'est la posture de Poilievre. La question de la GRC, c'est une question qui m'est complètement extérieure. Là, je ne suis pas un témoin privilégié dans cette affaire-là. Ce serait impertinent, mon point de vue. Mais il y a des gens qui sont surpris que Poilievre ait fait cette sortie-là. Moi, je veux juste leur rappeler une chose, là. Aux dernières élections fédérales, Pierre Poilievre a obtenu le meilleur score du Parti conservateur du Canada depuis Brian Mulroney. Donc, même si c'est Mark Carney qui a remporté l'élection, même si on a remarqué pendant la campagne que le style de Poilievre ne servait peut-être pas la posture éventuelle qu'il puisse occuper hein, le rôle de premier ministre, bien, il n'y a pas eu d'argument béton voulant qu'il change son fusil d'épaule, voulant qu'il change son style. Lui, là, quand il s'est réuni avec sa gang, même au lendemain de l'élection, après qu'il n'ait pas réussi à se faire élire dans sa propre circonscription, il les a regardés puis il leur a dit, je ne vais pas changer. Pourquoi je changerais? Ça a marché. Non, mais c'est vrai.
T'as raison.
Il y a quand même la moitié du caucus qui s'est probablement dit, ouais, mais c'est avant que la campagne se soit déclenchée, on était censé gagner. Là, ensuite, il était plus possible qu'on gagne. Il faudrait qu'il change. Donc, il y a vraiment une crise en ce moment importante au Parti conservateur du Canada. On ne peut même pas en soupçonner l'ampleur parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'il s'en aille ou alors qu'il change son style. Mais lui, il est convaincu que c'est ça qui a servi le parti. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il y a des arguments qui vont venir des deux côtés. Puis honnêtement, je ne saurais pas être capable de trancher.
Ça
Hein?
sert
Je
à
ne pourrais
quoi?
pas faire ça parce que si jamais il changeait son style, il y aurait quand même un risque qu'une partie du vote qui va aux conservateurs s'en aille ailleurs.
Assurément, ça c'est sûr que c'est important de le surveiller, puis je pense qu'il prend en compte. Mais ça servait à quoi d'avoir ces propos-là dans le podcast?
Ben, ça, est-ce que c'est la question, c'est ça sert à quoi?
Ça servait à quoi, oui, d'avoir ces propos-là dans le podcast?
Ça sert à rien. Il s'est échappé. Ça arrive à tout le monde de s'échapper. Moi, le Parti conservateur du Canada n'a pas en ce moment le besoin de consolider cette base-là. Hein, il y a une base qui est derrière le Parti conservateur. On n'a pas remarqué dans les sondages qu'elle était partie vers le parti de Maxime Bernier. Donc, si la stratégie, ça consistait à vouloir mousser cette base électorale-là, vouloir la réveiller, c'est raté. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une stratégie. Je pense que le Parti conservateur est intelligent, là, puis ce n'était pas une intention en bonne et due forme que d'aller dans ce sens-là. Il s'est échappé comme ça arrive à tout le monde. Puis c'est sûr que cette fois-ci, ça va être difficile pour lui de dire « Ah, mais moi, je n'ai rien à voir avec Donald Trump. Je ne m'en inspire pas du tout. J'aime pas du tout son style. » C'est qui, ça, Donald Trump? On a compris d'où ça venait, là.
En effet, t'as entièrement raison, Rémi Villemur. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te parler. On te parle les mardis et jeudis aux alentours de 13h. Je te laisse partir pour les studios du 99.5. Bonne émission ce soir, 18h. Et on se parle jeudi.
Bye-bye tous les deux. Bye-bye.
Salut Rémi, bonne fin de journée. Rémi Villemur, que vous entendez sur nos ondes, les mardis et jeudis aux alentours de 13h dans l'émission On en jase. Pascal, écoute bien ça. One more look at him. The wild pitch. High fly ball. Left field. A Rosarena. What does it go? Ah, oh, Pascal, après 32 ans, les Jays de Toronto qui atteignent enfin la Série mondiale. Coup de circuit de 3 points du vétéran George Springer hier en 7e manche, une victoire de 4-3. Les Jays vont commencer la Série mondiale vendredi à domicile contre les Dodgers de Los Angeles. Gars, yeah, le poil levé ses bras tellement même, que j'ai capoté.
Même chose. En plus, ils n'ont pas eu des années nécessairement très faciles. Il a fallu qu'ils se battent hein, ouais. Dans les dernières années.
Ah,
là,
vraiment?
Là, c'est payant. Ils ont un nouveau stade. Les fans sont capoté, viré
oui,
sur le top.
C'est fou.
T'as plein de gens de la ville qui sont allés voir les Jays. Là, malheureusement, les billets sont rendus très, très chers.
1 500 $ le billet le moins cher aujourd'hui, dans le pit.
Tout a augmenté.
J'ai deux de mes chums qui trippent, sont allés aux deux premiers matchs de l'autre série, puis là, on les textait tantôt, on disait, y allez-vous? Ils ont dit, êtes-vous malade à cette
année-là? Non, c'est très difficile, ouais, au niveau de la finance. Par contre, ben, y a l'ambiance qui peut être autour du stade, qui peut être intéressante,
exactement.
Mais ça aussi, c'est cher. Ouais. Mais on peut tellement être content d'être ça.
Oui.
Cette fièvre du baseball-là se reflète aussi à Québec.
Oui.
Veux pas.
Ah,
c'est
oui.
Donnant-donnant.
Puis là, aujourd'hui, c'était beau parce qu'il y a plein de vidéos sur les médias sociaux de Vladimir Guerrero Jr. quand il était tout petit. Puis il avait son gelé des expos avec son père, Vladimir
wow,
Senior.
J'ai pas vu ça. Okay, ouais. Je vais aller voir
ah,
ça.
Ah oui, puis c'était beau. Il a dit, je suis né au Canada, je suis né pour ça. Et c'est pour ça que j'ai signé ici à long terme.
Ouais, ces histoires-là.
Ah, c'était beau.
C'est pour
avec
ça.
Les yeux le dans sport. L'eau. Ah, j'avais les frissons, mais c'était bouché une bière. Mais c'était bouché une bière de plus. J'ai
pour
dit,
lui.
Je bois pour toi, mon Vladimir. Sinon, dans le sport, le Canadien l'a emporté 4-2 hier sur les Sabres. Prochain match demain soir à Calgary. Et victoire des Lions de Détroit 24-9 sur les Buccaneers ouais. De Tampa Bay. Ils
sont forts,
sont forts.
Ouais. L'année passée, on se doutait là, que ouais. Cette année, ça allait être assez
exceptionnel.
Ah
non, cette année, là, ils sont très équilibrés cette année, les Lions. Pas juste offensivement, mais une très bonne défensive.
Les fans des Lions assurément connaissent une année comme les fans des Bengals ont connu.
C'est un bon parallèle. Là, trois ans que tu t'es rendu au Super Bowl.
Ça tourne le fer en plaie,
ouais.
Mais je dirais une coupe d'année.
C'est un bon parallèle.
Ils ont attendu et maintenant ouais. Ça paie.
Et les Seahawks de Seattle l'ont emporté 27-19 sur les Texans de Houston. Ça, la division ouest de la conférence nationale est exceptionnelle. Trois équipes à 5 victoires, 2 revers. 49ers de San Francisco, Seahawks de Seattle, Rams de Los Angeles. Ça va être serré jusqu'à la fin. C'est de l'excellent football. On fait une courte pause. Pascal, par la suite, on revient avec quelques manchettes. Et Gaétan Pageau, le maire sortant de la ville d'Ancienne Lorette, vient s'asseoir avec nous. Hier, on a reçu Alain Fortin, le candidat à la mairie, justement, l'opposant à M. Pageau. Ben, M. Pageau veut venir remettre de l'ordre d'un peu avec ce qui s'est dit.
C'est de bonne guerre
hier
politique.
Sur nos ondes, c'est de bonne guerre. On montre les deux côtés de la médaille à Boulevard 102. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102. Hein? Hey, on l'aime, ce show-là. Puis j'espère que vous l'aimez également. On a bien du plaisir, moi et Pascal CV, à parler d'actualité. Comme Pascal vient de dire, on est des crackpots d'actualité, puis c'est vrai.
On fait ça parce qu'on est des crackpots d'actualité.
Exactement.
On n'en est pas devenus en faisant ça.
Non, et continuez à interagir au 418-971-1021. Le maire sortant d'Ancienne Lorette, Gaétan Pageot, est installé avec nous. Mais avant, Pascal, justement, on disait, hey, on aime ça, ce show-là. On aime ça parler aux auditeurs. On aime ça les voir aussi, nos auditeurs. Puis là, demain, il y a un rendez-vous à pas manquer.
Ben oui, puis on invite tout le monde. C'est gratuit, c'est le fun, c'est où? C'est central, c'est au Malte Commode, du côté de Beauport. Alors, 3333 rue du Carrefour. Dans le complexe, là. C'est aussi simple que ça. Ouais. Malte Commode, vous venez. Boulevard 101 célèbre, c'est 10 ans. Donc, 10 ans
oh,
à vous
yes.
parler, 10 ans à vous accompagner, certainement 10 ans à ce que vous nous enrichissiez de vos commentaires, vos états d'âme, tout ça. Puis on a le goût d'être festif. Donc, en 2015, Leclerc Communication fondait cette station-là qui est maintenant dans vos poches avec l'application, qui est au bureau, qui est au télétravail, peu importe. Et on veut faire ça en grand. On vous attend demain 17 h pour les 10 ans de Boulevard. Puis en plus, on a décidé de faire le lancement de la bière de Gravel. L'émission spéciale en direct. Ben, Malcommode, pourquoi pas? Écoute,
oui.
Tu peux prendre un Perrier si tu veux. Là. Il n'y a pas de limite au bonheur de chacun. Et aussi, surtout, on aura l'intronisation du Radio Hall of Fame. C'est le duo Denis et Véro qui vont faire et souligner 20 ans de carrière ensemble. Personne
le plus
qui a
long
fait ça
coupe radio
Québec.
De l'histoire de la radio à Québec.
Exactement. Puis certainement le band Big Muff qui nous accompagne souvent dans nos aventures. Alors, paquet de surprises demain. Mettez ça, là, c'est un 5 à 7 dès 17h au Malcommode à Beauport.
Wow! J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte à cette soirée et c'est bien mérité pour Denis Véro.
On a une autre chose à festoyer aujourd'hui, c'est dans le domaine des sports, il y a un tournoi de tennis professionnel masculin qui va voir le jour à Québec. Ça a été annoncé dans les dernières heures, donc après la WTA, autour de l'ATP, je m'excuse pour les acronymes, mais c'est ça, de revenir s'installer à Québec. Fait que c'est un nouveau tournoi de tennis professionnel, c'est masculin, c'est de calibre Challenger, ça va voir le jour dans le complexe de l'Université Laval. On est déjà bien équipés au PEPS.
Oh, tellement!
Présence, entre autres, très intéressante des fans, mais aussi de ceux qui veulent découvrir le tournoi. Fait que ça, là, je veux te dire, c'est une grande victoire.
Ah, Québec, on est tellement dynamique en matière de sport et en matière de variété sportive. Vraiment, on peut être fiers de nous.
C'est un peu plus problématique dans une autre sphère de l'actualité. Quand je te parle de l'ARC, c'est jamais le fun. Il n'y a jamais personne qui triple. Mais la grande majorité
Attends une minute. Il y a des délais d'attente?
La grande majorité des renseignements fournis par les agents de l'ARC sont inexacts. Donc, êtes-vous surpris?
Oh,
Qu'est-ce que vous vivez avec l'ARC? C'est le temps de nous écrire au 88-971-1021. Mais le temps d'attente pour parler aux agents, ça a doublé en un an. Et c'est un rapport assez accablant parce que vous le savez, là, veux pas, ça fait partie de votre vie. Puis c'est très stressant quand vient le temps de jaser, d'avoir de l'information, de régler vos finances, régler vos affaires. Mais quand on voit un rapport de la vérificatrice générale, Karen Hogan, puis qui est juste négatif, qui dit ben vous allez prendre votre mal en patience, même si normalement vous n'aviez pas à le prendre, c'est un peu déplorable dans l'actualité.
Clairement. Et regarde, Pascal, la belle photo que j'ai sur mon ordinateur.
Ben oui.
L'avalanche est nordique. Si vous n'avez pas vu ça, allez sur BLVD, sur la page Facebook de BLVD. L'avalanche du Colorado qui a sorti un gilet des Nordiques de Québec qui est extraordinaire et ils vont le porter contre le Canadien de Montréal.
C'est très bleu, c'est très présent et ça fera sourciller les fans du Canadien. Est-ce qu'on va revoir un genre de division où tout le monde va chercher son camp?
Ah, moi je vais prendre pour les Nordiques, c'est certain. Gaétan Pageot, maire sortant d'Ancienne Lorette, est avec nous en studio. Monsieur Pageot, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Étiez-vous un Nordique, Monsieur Pageot?
Ben oui.
Ah oui?
C'est clair.
On s'ennuie. Hein?
On s'ennuie de ça.
Ah oui.
Ça va-tu revenir? C'est ça qu'on se pose.
Ça me surprendrait avec les millions.
Mais on est équipé pour les recevoir.
C'est clair.
C'est clair qu'on est équipé pour les
recevoir. Peut-être un jour à Loretteville, qui sait. Mais là, vous êtes avec nous aujourd'hui.
Ouais.
C'est-tu en réplique à ce qui s'est passé hier sur nos
ondes? On avait M. Fortin hier sur nos ondes, qui est le candidat justement à la mairie d'Ancienne Lorette contre vous. Donc, on est très heureux de vous avoir. Puis je veux vous lancer immédiatement. Dossier taxe agglomération.
Oui.
Saint-Augustin n'a pas signé. Vous avez décidé de signer. Comment
tout à
ça?
Tout fait. Mais écoutez, il faut comprendre que devant les tribunaux, là, c'est la ville de l'Ancienne Lorette et la ville de Québec. Donc, Saint-Augustin s'est greffé à la poursuite de la ville de l'Ancienne Lorette il y a plusieurs années. Donc, là, la démarche que l'on a fait avec Québec, ça fait 2 ans qu'on travaillait pour se sortir des tribunaux. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la ville de l'Ancienne Lorette qui a payé la majorité des frais d'avocat.
Ça coûtait combien?
Les frais d'avocat, je rectifie ce qui s'est dit hier, là. C'est
oui,
pas 22, 24 millions, là. T'sais, on est à 15 millions. Parce que c'est un total de 14, 15 millions, c'est parce qu'on a un total de 18 millions, mais il y en a 4 millions qui a été remboursé lors des procédures judiciaires. Ça fait qu'on est autour de 15 millions, c'est ce qu'on a toujours dit, et ça a toujours été fait par la ville de l'ancienne Lorette. Il faut comprendre ça, là, qu'il y a eu peu d'argent de Mid-Québec, pas de Québec, pardon, mais de Saint-Augustin. Ils se sont accotés sur nous, un peu comme un recours collectif.
Mm-hmm.
Et ils ont bénéficié d'énormément au niveau du retour. Il y a eu 100 millions de retours pour les deux villes. Il y en a eu 40 millions pour l'ancienne Lorette, 60 millions pour Saint-Augustin. Pourquoi? Grâce à leur potentiel fiscal, qui sont plus élevés que nous.
Okay. Donc, puis qu'est-ce qui explique ce potentiel fiscal-là? C'est le fait qu'ils ont
des terrains.
Des
villes.
Ouais, c'est ça, ils ont des terrains industriels.
Bien, c'est leur parc industriel, et ainsi de suite. C'est la valeur des villes.
Parlons-en des terrains. Ça fait chicane. Honnêtement, hier, je pense que c'est la chose qui était le plus commentée au 88-971-1021, savoir est-ce qu'on devrait vous donner des terrains comme ça, la Ville de Québec, pour que vous puissiez faire du développement. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté?
Bien, écoutez, j'ai entendu hier que le ministère des Transports veut donner la bande de terrain. Écoutez, faudrait me dire c'est où, parce que...
Vous allez aller signer trois copies.
Ça fait au moins 4 ans qu'on parle avec eux autres et on a réussi à faire une avancée assez extraordinaire qui est de créer le corridor lorettain. Puis que je vous invite fortement à venir le marché. C'est une piste cyclable qui va aller relier à terme, avec nos ententes avec la Ville de Québec, le corridor des cheminots et le corridor du littoral.
Donc, ça fait jaser piste cyclable ancienne Lorette parce qu'à Québec, c'est le gros débat là-dessus.
Ben, ça fait jaser partout, que ce soit piste cyclable, que ce soit trottoir, vous le savez. Le monde en demande, mais dès que tu dis on fait un dans ta rue, non, c'est pas une bonne idée.
C'est ça.
Donc, on parle avec les gens, on s'entend, on discute, on consulte beaucoup à l'ancienne Lorette au cours des dernières années. On a eu énormément de consultations citoyennes à divers degrés, autant au niveau du programme d'urbanisme que tout ce qui se passe au niveau de la ville de l'ancienne Lorette.
Vous écrivez que vous êtes pour une démocratie transparente, ouverte et consultative dans vos documents de présentation là, pour les élections municipales du 2 novembre. Pourquoi vous l'écrivez? Trouvez-vous que ce n'est pas le cas actuellement?
Non, on est en pour... Nous, ce que l'on vous dit, là, c'est qu'au niveau de Fierté Lorettaine, mon équipe qui se présente avec moi, là, c'est qu'on est dans la continuité. C'est ce qu'on a fait au cours des dernières années. Donc, au cours des dernières années, ce que l'on a fait, on s'est engagé il y a 4 ans en disant qu'à l'ancienne Lorette, on s'engage pour diminuer la dette. Il faut se rappeler qu'il y a 4 ans, on avait une dette de près de 40 millions à l'ancienne Lorette. 4 ans plus tard, on est rendu à 19 millions, pardon.
Donc, comment vous êtes arrivé à ça? Vous avez aussi
c'est
les taxes?
C'est les montants qu'on a obtenus de la Ville de Québec. Lors du procès, on a reçu 42,5 millions de dollars. Quand on a reçu ces montants-là, vous savez, là, il y avait des demandes à savoir est-ce qu'il peut se faire des remboursements directs ou pas. On a fait des démarches avec le ministère pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec ça. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que vous pouvez diminuer votre dette. Et en diminuant votre dette, vous allez diminuer le fardeau fiscal de vos citoyens. Ne plus vous endetter et ensuite de ça, de s'assurer de conserver le compte de taxes le plus bas. C'est ce que l'on a fait au cours des dernières années avec ces montants-là.
Je me suis renseigné sur la ville d'Ancienne Lorette, une ville où la population vieillit.
Oui.
Et là, vous avez justement l'enjeu de garder vos jeunes
tout
dans la ville.
Tout
qu'est-ce que vous allez faire comme développement justement pour garder ces jeunes-là? Parce qu'il y a une crise du logement là, qui doit frapper Ancienne Lorette aussi.
On a déjà commencé et ça c'est parti de nos gens que... J'appelle plus les aînés. Moi, j'appelle des gens qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que nous.
Ah, la politique ressort dans les propos.
Non, c'est pas de la politique. C'est une personne de Jules Verne qui m'a dit ça. Il m'a dit que je suis arrivé à un moment donné, j'ai des aînés. Non. Moi, je suis jeune depuis plus longtemps que toi, c'est tout. Fait que c'est pas la politique.
J'adore cette personne.
Oui, c'est ça. Je le salue, c'est M. Morel. Fait que, donc, à ce moment-là, ce que l'on a fait avec les gens nous ont beaucoup interpellés pour nous dire... Nous, on veut demeurer à l'ancienne Lorette. On est des Lorettains depuis quoi? 30-40 ans qu'on a une maison, mais il n'y a pas d'endroit pour y rester. Donc là, on a parti des projets domiciliaires sur la rue Notre-Dame. Donc les gens, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir un stationnement souterrain, un ascenseur et d'avoir un logement convenable. Et ça, ce que ça permet, et c'est déjà commencé, c'est que les bâtiments qui sont actuellement en construction, il y a des personnes qui n'ont plus la capacité ou qui ne veulent plus entretenir leur terrain, qui vont s'en aller là. Et ça libère des maisons pour des jeunes familles pour venir à l'ancienne Lorette.
Alors ça, c'est le point 1 du comment vous allez faire soit une rétention ou accueillir des jeunes familles à l'ancienne Lorette. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Y a-t-il des complexes sportifs? Y a-t-il quelque chose pour dynamiser l'ancienne Lorette?
Tout à fait. Puis aussi ce que l'on a fait au niveau de la fameuse taxe de bienvenue que les villes doivent en même temps utiliser pour se financer, bien on a permis là, aux gens qui achètent une maison à l'ancienne Lorette de pouvoir l'étaler sur 6 mois en 3 versements au lieu de le faire seulement.
Ça, sans intérêt?
C'est avec sans intérêt, c'est ça.
C'est ça.
Avec sans intérêt.
Ouais. Sans intérêt, pardon.
C'est ça.
Et ensuite de ça, ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'équipement sportif, à l'ancienne Lorette, nous sommes très, très bien équipés. On a des parcs de quartier. On a un total avec le parc de la Rivière, 16 parcs. On a le boisé lorettain que l'on développe présentement. Donc, je vous invite à venir marcher l'ancienne Lorette. On
Parfait.
Le fait ensemble. Vous allez découvrir l'ensemble des équipements sportifs que l'on a et c'est exceptionnel comme lieu. Tu sais, quand on dit on sort de l'ancienne Lorette, mais on ne sort jamais l'ancienne Lorette d'un Lorettain, bien c'est ça.
Non, mais honnêtement, le complexe sportif avec l'aréna de glace, le terrain de football synthétique. Moi, mes garçons jouent au hockey.
Cinq terrains de football. Pardon, pas de football. Un terrain de football synthétique, cinq terrains de baseball.
De baseball, exactement.
C'est pas piqué des verres.
Non, c'est vraiment très, très, très beau.
Et on en est fiers.
Oui. Je termine l'entrevue là-dessus. Hier, on avait votre adversaire. Monsieur Alain Fortin, qui était présent. Bon, il nous a sorti une vieille une du journal, hausse de 30% de taxes d'Émile Loranger. Il parle beaucoup de contestation judiciaire, veut envoyer des chèques aux gens. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus là, par rapport à la taxe à l'agglomération, le remboursement?
Écoutez, ça a déjà été fait. Puis je vous dirais en premier lieu, là, tu sais, si ça pouvait se faire, on l'aurait fait. Mm-hmm. Puis deuxièmement, on est tous déçus de ne pas l'avoir, le fameux chèque que M. Loranger a promis. Mais à un moment donné, il faut revenir à la réalité parce que les choses se sont précisées au cours des dernières années. Il y a eu 3 jugements de la Cour qui nous dit qu'on ne peut pas le faire. On nous dit que la seule façon de remettre de l'argent dans les poches des citoyens, c'est de le faire de façon indirecte. Et c'est ce que l'on a fait au cours des dernières années. On a eu un taux cumulatif au niveau de l'inflation de 17,8% environ. Les taxes à l'ancienne Lorette ont augmenté de 3,95%. Et dès l'an prochain, nous, on s'est engagé à diminuer le compte de taxes de 5% et de le geler pour l'année de 2027. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a reçu un montant de 3 millions de dollars suite à la quote-part de l'agglomération. Et si vous prenez dollar pour dollar, ça donne 5%. Nos adversaires parlent de 10%. À 10%, vous avez besoin de 6 millions. Bon, ça veut dire que vous êtes en dessous de 3 millions. C'est soit que vous coupez les services ou vous augmentez la dette.
Monsieur Gaétan Pageot, maire sortant de la ville de l'ancienne Lorette, merci beaucoup de vous être présent en studio à Boulevard 101 aujourd'hui. On vous souhaite bon succès dans votre campagne électorale et au plaisir de se reparler. On fait une soirée spéciale élection le 2 novembre, donc si vous gagnez, on se lâche un petit coup de fil.
Vous m'appelez? Laisse mon cellulaire.
Avec plaisir, merci. Vous me laisserez votre cellulaire.
Merci,
merci beaucoup.
Au revoir.
Pascal, c'est ce qui va conclure cette émission de On en jase sur Boulevard 102.1. J'invite les auditeurs sur la web radio blvd.fm à aller réécouter notre débat sur la ville de Lévis.
C'était vraiment plaisant.
Présent.
Quelle belle journée au travail.
Oui.
C'est comme ça que si on me demande comment ça a été aujourd'hui, je vais répondre à la question.
Exactement. Le retour de Denis Gravel s'en vient à l'instant. Évidemment, on va continuer à parler de politique municipale parce qu'il y a un sondage Segma, Le Soleil, Radio-Canada qui s'est poursuivi aujourd'hui. On parle d'impopularité pour le projet de tramway. Bruno Marchand s'est justement prononcé là-dessus.
Il a commenté.
Oui, et il y a Stéphane Lachance qui vise beaucoup l'arrondissement de Beauport. Mais ben, regardons ça. Respect citoyen annonce un terrain de baseball synthétique à Beauport.
Pourquoi il convoite Beauport comme ça? On va falloir s'en reparler cette
semaine. Parce que dans le sondage Segma, la seule place où Bruno Marchand n'est pas en avance, c'est à Beauport.
C'est drôle, la coïncidence.
C'est la coïncidence du jour, Pascal CV. Restez à l'écoute de Boulevard 101, c'est le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey qui suit à l'instant même. Et nous, on se reparle demain à midi. Bonne fin de journée,
à
les
demain.
Amis.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Dans ton Jeep Compass, t'as tout ce qu'il faut pour l'aventure. Transmission 4x4, de série, confort et technique.